Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Jeu où on va parler uniquement d'un jeu, qui le mérite évidemment, puisqu'on va parler de Nier Automata, jeu qui a fait énormément de bruit cette année 2017 et dont on ne peut pas vraiment parler sans parler de l'intégralité du contenu qui est extrêmement spoilerifique. Alors si vous n'y avez pas joué, vous pouvez... Alors le premier conseil que donnerait Benoît, mon invité, c'est d'aller y jouer. Moi, je vous dirais, si vous pensez que vous n'allez pas vouloir... Enfin, si malgré toute la bonne volonté du monde, vous ne pouvez pas y jouer, l'idée aussi de cet épisode sera de vous expliquer les qualités et les défauts du jeu sans que vous ayez forcément à y jouer. Donc, bon, si vous n'avez pas du temps à y consacrer, peut-être que ça sera un moyen pour vous de... découvrir ce jeu dont tout le monde parle malgré tout. Ceci dit, je vais déjà introduire et présenter et dire bienvenue à Benoît qui continue le débat sur Nier Automata. Comment ça va aujourd'hui?
Mais ça va toujours très bien. Je me suis refait du café, je me suis écouté un peu de musique de Nier entre les deux podcasts là, c'est bon, je suis
très bien. Alors, il faut dire aussi que sur Nier, sur beaucoup de jeux, encore que j'ai tendance à penser qu'on est complètement opposé sur beaucoup de jeux, on a vu que dans l'épisode bilan de l'année, on s'était quand même retrouvé sur pas mal de trucs. Sur Nier, je pense que ça va pas être le cas, également comme on l'a vu dans l'épisode bilan de l'année, mais je crois aussi qu'on est vraiment à deux extrêmes opposés sur ce jeu. Toi, comme beaucoup de gens d'ailleurs, tu l'as énormément apprécié, et moi, comme assez peu de gens je crois, je suis vraiment pas rentré dedans et j'ai pas accroché, j'ai beaucoup de reproches à lui faire, mais il est possible que la plupart des auditeurs soient un petit peu entre les deux. Peut-être que certains d'entre vous trouveront les opinions exprimées un petit peu extrêmes, peut-être même les miennes, mais voilà, je sais pas si on sera hyper représentatif de l'ensemble des auditeurs, mais il est intéressant aussi de confronter ses opinions et de dire ce qu'on en a pensé et pourquoi. Surtout que moi, je me retrouve dans une position assez inhabituelle pour moi. Généralement, je suis plutôt dans le camp des gens de l'opinion générale. Je suis rarement parmi les gens qui disent ah mais non, je suis pas du tout de cet avis-là. J'ai adoré ou j'ai détesté tel jeu que tout le monde adore ou déteste ou adore. Mais là vraiment, comme je le disais dans l'épisode bilan, je me retrouve dans la position des gens qui ont pas aimé Breath of the Wild et je me sens très très isolé et j'ai l'impression que je suis presque le seul à ne pas avoir aimé Nier Automata.
Mais non,
je sais pas.
Il y a un endroit spécial en enfer pour les gens comme toi. Mais après.
Alors,
non, mais blague à part, moi j'ai eu beaucoup de discussions à ce sujet. Alors c'est rigolo que tu dises que beaucoup de gens en parlent, parce qu'en fait moi comme je suis un peu détaché maintenant de l'actu, je m'en suis pas rendu compte. Par contre j'en ai pas mal parlé avec des amis à moi qui l'ont fait, et dont plusieurs amis qui l'ont vraiment détesté, je pense autant que toi. Et à chaque fois les discussions sont vraiment cool, parce que justement tu vois le fait qu'il laisse pas indifférent et qui t'oblige à vraiment avoir une opinion formée, parce que c'est un jeu qui prend des risques, qui a beaucoup d'aspérité, etc. Moi, je trouve que c'est une de ses grandes qualités. Mais du coup, on en a parlé tout à l'heure sur le podcast bilan. Je vois bien que ça t'a pas marqué, mais on va voir en détail ce qui s'est passé.
On va explorer, oui, tout à fait. Avant de se lancer, je voudrais dire d'abord que moi, à la base, je suis pas très très fan des jeux japonais et de l'univers japonais clichés. Et j'ai beaucoup, j'en ai beaucoup avalé. Comme certains auditeurs le savent, j'ai consacré une bonne partie de ma vie au Japon, que ce soit au manga, aux animés ou au pays lui-même où j'ai vécu. J'ai appris la langue à l'université pendant des années et la culture. Enfin, je suis pas anti-japonais de base, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je suis pas réceptif. Et les clichés du Japon ont tendance à me hérisser un petit peu, donc forcément je l'admets volontiers, je pars pas avec un a priori positif sur le jeu, donc évidemment c'est un petit peu
compliqué. Alors, je te rejoins à 100% là-dessus, mais justement les clichés du Japon, c'est-à-dire toute la dérive moe, otak, weeaboo actuelle qui dégouline de n'importe quel JRPG depuis 6-7 ans, ça moi ça me sort par les yeux. Tu vois, les Xenoblade, les trucs comme ça, j'en peux plus, quoi. Même Final Fantasy XV, ça me saoule. Mmh. Mais du coup, Nier, pour moi, est pas dans cette catégorie-là. Hein.
Non, moi, je parlais plus des trucs du genre, je parlais
plus des trucs du genre. De Tubi, quoi. Mais voilà, on peut voir sa culotte.
Voilà. Non, mais c'est un petit peu ça qui m'a gêné. Mais non, mais il y a ça, il y a aussi les robots géants, tu vois, qui sont un peu, mais c'est des petits éléments, donc c'est pas
géants. Les robots géants, de toute façon, voilà, je veux dire, il y a la vie, Dieu, et puis au-dessus, il y a encore les robots géants, tu vois.
On est d'accord, mais bon, c'est juste pour poser le décor, pour dire que pour dire que j'admets volontiers que je suis pas la personne la plus réceptive au jeu a priori. Donc bon, je partais pas convaincu. À côté de ça, je veux pas non plus que les auditeurs croient que je n'aime que les grands jeux triple A. C'est vrai que souvent les jeux narratifs ont ma préférence, ou les jeux faciles d'accès, les jeux. Je pense pas que ça soit forcément une quelque chose de négatif de dire les jeux faciles d'accès, mais c'est un fait. J'ai tendance à graviter vers ces jeux-là, mais j'ai aussi adoré des jeux très très différents. Enfin, comme je le disais, Gone Home est l'un de mes jeux préférés. Stanley Parable, c'est un monument du jeu vidéo. Enfin, bref, il y en a plein.
Alors là, du coup, je te rejoins, et en plus de ça, je vais appuyer ton propos en disant qu'il faut surtout pas céder à la tentation de séparer les joueurs entre hardcore machin, parce que moi, j'ai une réputation qui m'accroche au fait que j'adore Dark Souls et on me prend pour une espèce de grand Manitou des jeux difficiles. Si vous aimez le easy gaming, allez-y à fond, quoi. Il y a aucune honte à jouer à des jeux en mode facile, il y a aucune honte à jouer à des jeux qui sont avec un gameplay limité, etc. C'est juste que moi, ma préférence va vers des jeux qui me posent un challenge. Maintenant, vraiment, il y a tout ce qu'il faut, il y a à boire et à manger dans l'univers du jeu vidéo aujourd'hui, donc pas de communautarisme là-dessus. Si vous aimez, moi je peux pas te jeter la pierre. Si t'as envie de pas te prendre la tête et de jouer pour te détendre et de t'amuser sur un truc un peu grand spectacle, eh ben t'as tout à fait raison. Et il y a des super trucs pour faire ça, quoi.
Et alors justement, moi il y a des trucs qui me parlent énormément dans le jeu vidéo aussi, au-delà de l'amusement simple en tant que forme d'art. Et je voudrais commencer justement notre présentation du jeu par le point qui, moi pour le coup, m'a de manière inconditionnelle absolument plu. Et que j'ai trouvé être une réussite magistrale à tout point de vue, c'est la route E, que là encore on avait évoqué dans l'épisode bilan auquel on risque de faire référence plusieurs fois dans cet épisode. Mais
est-ce que tu veux que je fasse un petit pitch de plus précis, plus spoil, pour que les gens ils sachent de quoi ça parle?
Bah vas-y si tu veux.
Parce que là tu parles de route E, si les gens ils connaissent.
Oui,
pas
j'allais expliquer, mais vas-y.
À la rigueur, dis-le avec tes mots à toi, et puis moi je.
Ouais, voilà. Très bien. Bah c'est ce qu'on va faire, parce que effectivement les visions sont sans doute très différentes. Donc comme certains d'entre vous le sauront certainement, même si vous n'y avez pas joué, le jeu, un gros élément du jeu, c'est qu'il y a plusieurs routes. En l'occurrence, on va dire 5 routes principales. Les autres étant très très anecdotiques, et on va faire le jeu plusieurs fois entre guillemets, et j'y viendrai à un moment. Mais si on parle de gameplay, la route E, c'est le dernier moment du jeu qui arrive après, on va dire, une vingtaine d'heures environ.
C'est ça. Ouais.
Si on suit la quête principale, une vingtaine d'heures. Et c'est un moment où on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans le jeu, on a vécu des aventures avec les personnages principaux, des aventures explosives, surprenantes, un parcours émotionnel assez long et fort. Et à la fin du jeu, on va dire, les personnages principaux sont morts. Et là, les compagnons des personnages principaux, qui sont des robots, des intelligences artificielles, commencent à discuter et disent, je schématise, hein, mais disent, on a développé une sorte de relation avec les androïdes, qui sont les personnages principaux, et il faudrait expliquer tout le jeu, mais en gros, ils vous proposent de modifier la fin du jeu et ils vous disent et donc les pods, les robots se tournent vers vous et vous disent est-ce que vous voulez que les personnages survivent? Et là, tu te dis forcément bah enfin oui. Et donc la scène, le générique qu'on a déjà vu plusieurs fois puisqu'on a fini le jeu plusieurs fois, repasse sauf qu'elle se transforme en jeu de tir, en shoot 'em up.
Et donc t'attaques par le truc, enfin c'est le climax. Pourquoi tu commences par ça?
Je sais pas, peut-être que parce que moi je veux résumer le moment hyper fort.
Mais non, écoute, mais il y en a des tonnes avant ça.
Je vais le dire parce que moi c'est le moment qui m'a vraiment marqué, mais tu pourras dire où est-ce que tu veux commencer toi et puis moi je dis après, je sais pas. Mais c'est compliqué parce que la manière dont tu vis le jeu, je pense, influence la manière dont tu reçois ce truc, mais
ouais, clairement. Mais bon, bah finis ta presse et puis au pire on repartira de zéro, on va voir hein.
Bah je veux pas raconter tout le jeu, je veux juste parler du point hyper fort. Et donc on a ce moment shoot 'em up. Et ce qui défile, c'est le générique, sauf que on est dans un petit vaisseau et on détruit les noms on détruit le générique, en fait. Et en fait, on détruit l'équipe qui a fait le jeu. Et on par ce biais, ça symbolise un petit peu le fait qu'on va modifier la fin du jeu ou la direction du jeu. Et donc le joueur, de manière très quatrième mur qui tombe, se bat contre le développeur pour d'une certaine manière imposer sa volonté au développeur, là où évidemment dans le jeu vidéo c'est le développeur qui fait qui vous fait faire ce qu'il veut vous faire faire. Et le moment le plus fort, même tout ça, alors il y aurait déjà des milliers de niveaux à explorer là-dedans, mais pour moi, le point qui est vraiment central et qui est encore plus fort que tout ça, c'est que plus on avance dans le générique, plus ça devient difficile. Et à un moment, on se retrouve au milieu d'un bullet hell monstrueux où il y a des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais des dizaines de projectiles à l'écran, et ça devient quasiment impossible de continuer à progresser. On meurt. Et moi, qui ai vécu ce jeu d'une vingtaine d'heures comme une vraie... Je peux le dire parce qu'il m'a pas plu. Donc, je me suis forcé. C'était une souffrance de continuer à jouer au jeu parce que j'ai pas aimé, quoi.
Je comprends pas comment t'as fait pour aller au-delà de la fin A ou B, pour te forcer à aller au bout. Moi, c'est un truc, tu vois, je t'arrête tout de suite, mais quand un truc te plaît pas, il y a tellement de choses à faire. Pourquoi se forcer à aller au bout,
tu vois? En fait... Là, c'est t'as raison de poser la question parce que normalement je l'aurais pas fait. Mais le truc c'est que il y a tellement de gens que je respecte, qui m'ont dit que le jeu était soit exceptionnel, soit hyper intéressant, que je voulais savoir. Tu vois, et c'est presque c'est comme quand tu vois un film qui va pas forcément te plaire, mais c'est pour ta culture générale. Tu veux connaître le média, donc tu le
comprends.
Tu vois?
Ça, je comprends bien. Je vais continuer parce que ce qu'il faut comprendre, cette fin E, alors c'est vrai que c'est surprenant de commencer par ce moment-là, mais donc en fait, c'est pas que tu...
Et on n'est même pas arrivé au moment dont je parlais. Hein.
Ouais, c'est en fait tu choisis de supprimer en fait l'intégralité de l'existence des androïdes pour pouvoir les sortir de la boucle dans laquelle ils sont, parce qu'en fait ce que te révèle le jeu sur la toute fin, c'est qu'en fait c'est une histoire qui se répète depuis des milliers et des milliers d'années et qu'ils essayent de s'en sortir puisque toute la planète Terre n'est qu'une immense simulation dans laquelle ils essayent de recréer l'humanité et qui se pose en permanence la question de savoir qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, et ils essayent de le faire avec des robots et des androïdes. Et c'est une immense simulation. Et en fait, donc en faisant ce choix, la fin E, tu dois détruire le générique pour supprimer en fait le programme et toute la simulation. Et ce qui est magique, et ce qui est moi le moment qui m'a vraiment été poignant, et c'est là où tu y arrives, c'est que quand ça devient tellement difficile, le jeu te propose de l'aide. Et l'aide, en fait,
même
c'est
avant
d'autres
ça,
joueurs.
Attends, avant ça, avant même d'arriver au moment où il te propose de l'aide, et si tu veux bien, je vais le raconter parce que
vas-y. Je le dirai avec mes mots après.
Moi, je voulais pas finir ce jeu, en fait. Et je me suis forcé un petit peu parce que je me suis dit, c'est une question de culture générale, il faut que je connaisse ce jeu, c'est un truc important dans le média du jeu vidéo. Et le truc devenait tellement difficile que ça devient ridicule de difficulté, c'est impossible à finir. Mais ça, tu le sais pas quand t'es en train de le faire la première fois. Et là, commencent à apparaître des messages de d'autres joueurs qui sont passés par ce passage hyper difficile et ils te disent vas-y, continue, c'est tellement,
accroche-toi,
tu peux y arriver, moi aussi j'étais comme toi. Et je me disais, je crois que s'il n'y avait pas eu ces messages, j'aurais abandonné.
Et c'est fait exprès.
Mais exactement, mais complètement. Ouais, ouais, ouais. Et ça fonctionne complètement. Et donc, j'ai continué, je me suis dit, et je me suis senti par l'intermédiaire du média, par l'intermédiaire du jeu vidéo, par l'intermédiaire de cette forme d'art vraiment et de l'intention du réalisateur, je me suis senti motivé à continuer. Mais ça continuait à être hyper dur. Et plus j'avançais à une étape suivante, plus c'était dur. Et au bout d'un moment, quand tu meurs, je sais pas, 5, 6, 10 fois, il y a une des personnes, c'est du texte en fait qui apparaît, qui dit vas-y continue. Il y a un des joueurs, tu sens, enfin tu vois le nom du joueur et ça te dit, il te propose de l'aide. Est-ce que tu acceptes son aide? Et donc tu fais un choix conscient. C'est pas juste que le jeu, bon bah machin t'aide, voilà continue. C'est tu fais un choix conscient de te dire je vais accepter son aide. Une fois que tu as accepté l'aide, tout à coup, tu as 5 vaisseaux supplémentaires autour de toi, et donc au lieu de tirer un petit tir, bah tu vas en tirer 6 ou ce que c'est, et donc ça devient tout de suite pas super facile, mais ça devient beaucoup plus facile, et tu peux arriver au bout. Donc là, tu dis ah super, j'ai réussi à arriver au bout, on m'a proposé de l'aide, c'était sympa. Tu arrives au bout et tu as une petite cutscene où les robots en question font un truc dont on va parler plus tard et tu réussis à changer en fait ce cycle dont parlait Benoît.
Bah on peut même le dire parce qu'en fait c'est alors et à l'instant où tu acceptes l'aide du joueur, il y a les chœurs de la musique du morceau qui s'appelle The End of Yora qui commence et les chœurs sont chantés par l'intégralité de l'équipe de Platinum Games et de Square Enix. C'est Yoko Taro, c'est l'intégralité des développeurs qui chantent et qui t'aident en fait, et le cœur commence à l'instant où tu acceptes l'aide des autres joueurs.
Et ça, du
en plus,
coup,
c'est un truc qui propulse, mais en plus parce que moi j'étais déjà vraiment pris par l'histoire depuis le début, et je savais, parce que je sais très bien ce qui se passe quand tu fais ce choix-là, parce que dans Nier il y avait le même twist, qu'à la fin en fait, et je vais le dire maintenant.
Alors attends, est-ce que je peux le dire parce que c'est le seul truc que j'ai aimé du jeu.
Dis-le, alors.
Donc tu passes cette cutscene, les robots ont fait ce qu'ils ont fait et donc le cycle peut continuer peut-être pour sortir du cycle en fait. Et là, le jeu te pose une question qui, quand j'y repense, ça me donne des frissons. Le jeu te dit, est-ce que vous voulez vous aussi proposer de l'aide à quelqu'un qui sera en difficulté à ce stade? Et là tu dis, oui, forcément, bien sûr. Donc tu dis oui et il te pose la seconde question qui est, si jamais vous acceptez de donner de l'aide à un autre joueur, toutes vos sauvegardes seront perdues. Vous allez supprimer toutes vos sauvegardes et tout votre travail que vous avez fait jusqu'à maintenant va disparaître. Et là, je me suis dit, d'une part, mais non, j'ai trop souffert pour arriver jusque-là. Et d'autre part, tu te rends compte que l'aide que tu as reçue venait du sacrifice d'un joueur qui, lui, a supprimé toutes ses sauvegardes.
Et ça, c'est oufissime.
Mais c'est incroyable de force. Je veux dire, quand tu vis ce truc, moi, je me le suis pris en pleine figure parce que ce qui est hyper fort, c'est qu'ils te le disent qu'après, évidemment. Donc, tu te rends compte que cette aide que tu as acceptée, que tu sentais, tu pensais être un truc un petit peu, de jeu vidéo, qui était complètement, qui n'avait aucune conséquence dans la vie réelle, ou d'impact. Eh ben, tu te rends compte qu'en fait, tu as pas volé parce qu'il te l'a donné, mais tu as pris les 20 ou 30 heures de jeu de cet autre joueur qu'il t'a offert en se sacrifiant pour te permettre d'arriver à ce stade. Et vas-y,
tout
tu
le
peux
jeu tourne
mais
autour
je suis...
de ça, c'est ça qui est génial justement, c'est un moment d'une intensité qui est ouf. Moi, j'étais en larmes pendant l'intégralité des crédits parce que d'une, t'as la chanson qui mélange les différentes voix, donc on entend les différentes cantatrices qui changent de langue au fur et à mesure pour expliquer l'évolution qui reprend. En fait, c'est une chanson qui est construite sur tous les différentes fins et qui en fait une espèce de medley gigantesque à la fin. À l'instant où t'acceptes l'aide, il y a les chœurs et c'est les développeurs qui chantent. T'entends la voix de tous les développeurs qui se sont mis ensemble en train de chanter et qui font la 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 et qui t'aident en fait, tu vois.
Ouais, non, mais en plus,
te poussent à aller jusqu'au bout. Et à la fin, t'as d'autres joueurs qui viennent. Quand ils meurent et que tu perds les vaisseaux, ils te disent c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de t'aider, j'avais besoin, tu vois, j'étais content d'avoir pu t'aider et d'avoir participé à ce truc. Et on participe à une espèce d'effort collectif d'une vacuité sans fin, puisqu'à la fin, on perd nos sauvegardes. Mais comme le jeu est une réflexion intense sur la condition humaine, sur ce qui fait de nous des êtres humains, etc. À la fin, de toute façon, on va mourir. Donc, de toute façon, à la fin, si on perd notre sauvegarde, si on disparaît complètement et qu'au final, tout ce qu'on a fait n'a servi à rien, c'est peut-être un peu ça ce qui fait qu'on est des humains, tu vois. Et c'est, le jeu tourne autour de ces questions-là et tourne autour de ces questionnements-là et propose ce genre de choses. Après, la petite récompense, c'est que quand t'as accepté de supprimer ta sauvegarde, t'as un écran d'accueil différent qui te différencie de tous les autres joueurs.
D'accord. Ouais, donc t'as quand même un petit truc
qui rappelle que tu as été là, que tu as choisi de supprimer tes sauvegardes et que t'as accepté de faire le sacrifice.
C'est limite un petit peu décevant que tu obtiennes quelque chose en acceptant de te sacrifier, parce que du coup certaines personnes vont le faire pour avoir la sauvegarde finale où t'as l'écran spécial et toutes les et refaire le jeu pour avoir. Mais
si,
bon.
C'est les gens qui vont faire les trucs pour les succès, etc. Forcément vont se retrouver dans cette logique où ils vont faire les choses pour les obtenir et non pas pour faire le voyage qui te permet d'arriver à ce moment-là. Ouais. Donc ça c'est, mais c'était déjà le cas dans le premier Nier, c'est-à-dire que dans le premier Nier, t'avais aussi cette quatrième fin, il y en avait que quatre, où tu supprimais en fait l'intégralité de la sauvegarde pour réussir à sauver ta fille. Donc
Bah ça tu vois, j'ai pas fait ni de Drakengard ni de Nier ni des jeux précédents. Donc j'y suis arrivé complètement.
C'est pas obligatoire. Il y a des clins d'œil qui sont géniaux et qui font plaisir quand t'as aimé le précédent et du coup c'est agréable de voir ces petits clins d'œil à droite à gauche, mais l'univers d'Automata est indépendant totalement.
Alors, donc ça, c'est la partie que j'ai vraiment aimée et qui certainement restera avec moi. Et quand j'y repense maintenant, disons deux semaines après avoir fini le jeu ou une semaine après avoir fini le jeu, je constate à quel point c'est encore plus fort que ce que j'avais reçu à ce moment-là. C'est clairement.
J'ai des frissons à chaque fois que je me remets le morceau, parce que je me le mets régulièrement, et j'ai des frissons quoi. Parce que je me souviens parfaitement de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je me souviens d'être comme une Madeleine devant mon écran, être là genre, putain, c'était tellement fort tout ce que j'ai vécu jusque-là. J'étais tellement, je me suis tellement investi émotionnellement, tu vois, dans le parcours de 2B, 9S, quand 2B elle meurt et que tu joues à 1 à la place, etc. Il y a toute cette intensité d'émotion, de mélange, tu vois, j'ai perdu des amis, tu vois, Pascal, j'étais horrifié de le voir mourir. Il y a tout un tas de bonhommes que j'étais déçu de voir crever sous mes yeux alors que je pouvais rien y faire. Et t'arrives à cette espèce de climax de ouf avec le boss de fin où c'est du grand n'importe quoi, la Platinum, avec des boss géants, des phases de shoot'em up qui s'enchaînent avec des phases d'action. Ça va à 200 à l'heure. Tu changes de gameplay et de point de vue tout le temps comme dans tout le reste du jeu. Et t'as ce truc-là où t'entends tous les développeurs qui te soutiennent, tu vois, qui te prêtent leur voix pour t'aider à aller au bout et d'aller au bout du truc et de comprendre que toi, tout ce que t'as fait là, eh ben, ça va aider un autre joueur à réaliser la même chose. Ouais. Et c'est quelque chose que t'as pas dans le jeu vidéo habituellement.
Ah, mais ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un moment complètement unique et qui est tellement... qui imbrique tellement le cassage du quatrième mur et le fait de parler avec le joueur et de lui faire réfléchir à ce qu'il fait quand tu fais du jeu vidéo et de sacrifier. Enfin, moi, j'ai jamais eu un jeu où on te propose de sacrifier cette astuce de design qu'ils ont trouvé pour te faire sacrifier ta sauvegarde. C'est le seul truc que tu puisses sacrifier, en fait. T'as jamais eu un jeu où tu pouvais sacrifier quelque chose de réel. Et là, c'est le cas. Et c'est d'une intelligence rare. Je suis complètement d'accord. Maintenant,
tout le reste avant, ça t'a fait chier.
alors parlons peut-être rapidement du gameplay parce que tu l'as évoqué. Après, l'essentiel c'est l'histoire. Et pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, on va vous expliquer tout ce dont on parlait en partie.
C'est vrai qu'on est parti dans tous les sens là.
Ouais, mais je pense que c'était important parce que cet élément de jeu est le truc qui, si les gens n'ont pas joué au jeu, c'est ça qui va, je pense, les faire accrocher. Mais et puis ceux qui ont joué au jeu, on savent que c'est ce point qui est fort. Mais au-delà
de ça, ce que je trouve bien, c'est que même si tu le dévoiles, pour en avoir parlé avec des gens, je leur avais expliqué le principe des changements de fin et des changements de point de vue à chaque gameplay, enfin à chaque cycle que tu recommences, parce que c'est le principe du jeu, et ça les a pas empêchés d'apprécier le truc. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas le sixième.
Ouais, moi
sens
je crois que c'est quand même moins fort, quoi.
C'est un peu moins fort, j'imagine, mais ça les empêche pas de vivre quand même le truc, parce que si tu t'investis, comme je disais, émotionnellement et que tu commences à t'attacher aux personnages, que tu fais attention à leurs dialogues, à leurs échanges, à l'évolution de leur point de vue et comment ils comprennent petit à petit la galère dans laquelle ils sont, et ben du coup t'as une espèce de lien qui se crée avec ces personnages-là, qui est extrêmement fort. Et moi, ayant fini Nier, je savais pertinemment qu'à un moment donné, on allait devoir choisir de perdre sa sauvegarde. puisque c'était déjà le cas dans le précédent et que tu sentais le truc venir à 10 km, et ben j'ai quand même été voilà, parce que c'est mis en scène d'une manière différente. Il y a ce côté en ligne où tu partages du coup un moment, t'as un petit moment de connexion humaine, ouais, à un niveau inégalé dans le jeu vidéo, qui dure peut-être que quelques minutes, mais ces quelques minutes là, moi ça m'a fait ressentir ce qu'on ressent dans Journey quand tu croises quelqu'un, tu sais pas qui c'est quelqu'un qui change régulièrement, mais tu joues avec cette personne-là et tu fais un petit bout de chemin avec cette personne-là et tu
c'est encore plus
tu
fort,
vois juste son nom à la fin dans les crédits.
Mais c'est encore plus fort ici parce que c'est
et
vraiment
là, c'est encore plus fort.
Ouais. Alors justement pour parler du gameplay, moi j'ai quand même été un petit peu déçu du gameplay, surtout que j'attendais un truc Platinum et Platinum ils ont une maîtrise de ce type de gameplay importante, et moi je l'ai trouvé quand même assez monotone. J'ai trouvé qu'il y avait pas énormément de variété de progression du début à la fin du jeu, et je crois que les joueurs généralement sont d'accord pour dire que c'est pas vraiment le point super fort du jeu, c'est pas le gameplay,
c'est pas
un truc
quoi,
ouais vois. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord sur ce
beau jeu? Ah mais complètement, le gameplay est l'élément qui peut te faire décrocher du truc, parce que d'un point de vue très boucle de gameplay, très froid, pragmatique, tu passes 20 heures à tuer des robots qui se ressemblent tous parce que c'est des robots. Donc tu tapes des robots avec des coups de pied, des épées, des armes diverses et variées. T'as quand même un système de jeu avec tout le côté des modes que tu peux personnaliser, te créer.
Très sympa ça, j'avoue. Ouais.
Tu peux optimiser énormément ton truc. C'est on est à un stade où tu peux même tuer Tubby à tout moment. Si tu fais pas gaffe et que tu supprimes son implant de base dont elle a besoin pour vivre, si tu le vires et que tu fais pas gaffe, ça la tue. Et tu perds ta sauvegarde instantanément, elle meurt et du coup.
Et tu perds ta sauvegarde.
Non, c'est que je l'avais fait au tout début et il y avait pas encore de sauvegarde. Donc non, tu recharges à la dernière partie.
Oui,
mais tu peux la tuer à tout moment. Il y a marqué attention, ne l'enlevez pas. Si tu l'enlèves, elle meurt.
Alors, on peut expliquer ce système. C'est un système où tu as en fait un certain nombre d'emplacements, enfin une certaine place pour mettre les chips, les puces qui te donnent des capacités supplémentaires. Certaines des puces sont des capacités entre guillemets de base, c'est-à-dire l'interface. Tu peux supprimer des éléments d'interface en enlevant ces puces-là, et tu peux acheter plus de place pour mettre plus de puces. Et donc forcément, au fur et à mesure, tu vas pouvoir avoir des puces plus puissantes qui te permettent de faire des trucs de plus en plus puissants.
Et c'est très subtil, hein. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste augmenter ton attaque, augmenter ta défense. Petit à petit, tu vas pouvoir voler de la vie aux adversaires, tu vas pouvoir encaisser plus de dégâts, renvoyer des trucs, tu vas pouvoir gagner plus d'XP, gagner plus d'objets.
Regagner de la vie quand tu prends pas de dégâts, etc.
Tu vas pouvoir quand même mettre pas mal de petites subtilités. Ils ont pensé également à un mode assisté où tu peux en fait mettre des trucs qui font que le personnage va se battre intégralement à ta place, parce qu'après tout, c'est un robot, donc c'est tout à fait logique qu'il puisse être en pilote automatique.
Ouais, et
donc,
facile.
Tu peux complètement, ouais, mais alors c'est pas vécu comme un mode facile, parce que c'est, tu vois, ça a une justification diégétique. Tu joues un robot et tu peux très bien laisser le robot prendre la décision de se battre à ta place, comme un drone en fait, tu vois.
Ouais. Moi j'ai par principe là encore j'ai choisi de faire. Je voulais pas le faire en mode facile parce que j'avais peur justement de rater quelque chose dans le. C'est généralement ce que je fais. Enfin, je crois pas que je fasse de jeu en mode facile. Même Wolfenstein, auquel on dit souvent le jeu ça sert à rien. Enfin, le gameplay sert à rien. Donc jouer en facile, je l'ai fait en normal parce que j'ai toujours peur, tu vois, de rater un truc.
Ouais. Alors ça c'est des préconceptions qui tiennent pas justement dans Nier, parce que c'est pas grave. Si tu fais pas les combats, c'est pas grave. T'as des passages où, enfin, encore une fois, étant donné que c'est cohérent avec l'univers qu'il développe, c'est pas choquant. Et en plus de ça, si tu le faisais, au bout d'un certain temps, tu te rendrais compte que Tubby et 9S ont des dialogues légèrement différents, parce que du coup, ils prennent en compte le fait que tu les laisses un peu diriger leur vie et que ils se demandent de temps en temps ce que tu fous, quoi.
D'accord. Donc bon. Au-delà de ça, effectivement, un gameplay un petit peu moyen. Pour répondre aux questions que ne manqueront pas de poser certains, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a plein de jeux qui ont un gameplay moyen. Des jeux et je suis complètement d'accord. Mais pour moi, il y a des jeux, enfin un jeu comme Uncharted par exemple, où le gameplay effectivement, bon, assez linéaire. Je trouve qu'il y a plus de progression parce que tu as différents types d'armes. Différents types d'armes et différents settings, différents. J'ai vraiment trouvé que c'était. Je suis désolé, mais c'était mon impression.
On arrive au cœur du truc, c'est-à-dire que t'as une école, l'école de gameplay japonaise en fait, qui va être extrêmement tu vois, dans le détail absolu sur les animations, les feedbacks, les sensations qui sont données aux joueurs. C'est un truc qui est totalement absent dans Uncharted. Uncharted, moi, je l'ai fait sur YouTube et je ne regrette rien. J'ai rien manqué. Je considère pas avoir manqué quoi que ce soit parce que les séquences de gameplay, je les ai trouvées insipides au possible. T'as des pauvres IA débiles qui se cachent derrière des cailloux. Il faut aller les défoncer à coups de shotgun. Bon, ça casse pas trois pattes un canard. Si tu pousses un peu le délire de Nier Automata, à partir du moment où t'arrives dans la route B et que tu prends le contrôle de 9S et que tu peux commencer à pirater les monstres et prendre le contrôle des monstres, ça commence à devenir assez funky parce que du coup, tu t'ouvres toute une voie que tu ne connaissais pas. Et c'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup dans cette idée de rejouer le même jeu plutôt que d'avoir des fins alternatives, mais on y reviendra peut-être après. C'est que du coup, tu t'ouvres des possibilités et des choix de gameplay que tu n'avais peut-être pas au départ et que tu vas peut-être même t'empêcher de savoir si t'es pas curieux.
Mmh. Ouais, je suis
parce que le gameplay du piratage, il est fun, tu vois. En fait, tu te retrouves instantanément, t'es projeté dans le on va dire dans le cerveau robotique de du robot que t'as visé, et tu vas jouer une espèce de tout petit shoot'em up avec de la musique. La musique devient de la musique chiptunes instantanément, et tu dois détruire des petits corps le plus rapidement possible. T'as 5 ou 6 secondes, et si tu y arrives, tu vas pouvoir soit choisir de détruire l'objet en lui faisant des dégâts, soit prendre le contrôle du truc si t'as pas repéré, et du coup contrôler le robot et pouvoir t'infiltrer au milieu des autres robots, soit éventuellement, je sais plus ce que c'est, oui, le retourner contre ses collègues.
Ouais. Moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa une ou deux heures, mais tu vois, c'est sympa pendant une ou deux heures, mais au final, bah, une fois que t'as compris la mécanique de hacking, bon bah tu l'as fait, ça change pas énormément non plus. C'est, disons que sur un jeu comme Destiny par exemple, il repose entièrement sur son gameplay. Il n'y a rien d'autre dans ce jeu. Bon, et la courbe de progression, le looter, machin. Mais un jeu comme Destiny, effectivement, il n'y a rien. Donc, si tu aimes le type de gameplay de Destiny, tu vas t'amuser. Si tu l'aimes pas, c'est ce que je dis depuis le début de Destiny 1, si t'aimes pas aligner le robot, la tête du robot entre ton viseur et tirer dessus, si ça te procure pas un petit peu de plaisir, il y a des gens à qui ça procure du plaisir, j'en fais partie, il y a des gens, ça leur fait rien, ben c'est pas la peine d'aller plus loin. Destiny, il y a rien d'autre. Sur un jeu comme Uncharted, bon, il y a au-delà de ça l'histoire qui va être racontée, le traversal, les puzzles, ce genre de trucs. Alors sur Nier, il y a l'histoire sur laquelle on va revenir, mais sur le gameplay, moi j'ai été clairement déçu, quoi. J'ai trouvé ça.
Mais du coup, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, toi, c'est juste que c'est pas ton trip au départ, quoi.
C'est oui.
Moi, je sais que par exemple, moi je suis extrêmement sensible en vieillissant. En plus, je deviens de plus en plus horrible là-dessus sur les animations, les feedbacks et la précision des contrôles. Moi, les jeux qui sont flottants, les jeux à la Uncharted où tu contrôles pas vraiment ton perso, où il fait des trucs un peu à sa sauce et c'est pas toi qui contrôle tout, ça m'insupporte parce que je me sens pas impliqué dans ce que je fais. Que là, quand tu commences à jouer et à t'amuser avec 9S ou avec 2B, et que tu commences à t'amuser à jouer avec l'espèce de witch time, là, quand tu commences à faire des esquives au bon moment, que ça ralentit légèrement le temps, que tu disposes d'un super coup derrière, etc., il y a toute une forme de ballet, tu vois, de danse, qui est très spécifique au jeu Platinum Games, où tu as cette esthétique qui se dégage de tes actions. Et ça, c'est un truc, Bayonetta, tu vois, d'un point de vue artistique, je trouve ça naze, je trouve ça moche et de mauvais goût. Et pourtant, à jouer, c'est d'une beauté indescriptible, parce qu'en fait, c'est ce que tu vas réaliser comme action, la perfection du timing, la beauté d'avoir réussi à esquiver, de voir ton personnage qui passe parfaitement entre deux lames d'adversaires et que c'est pas prévu pour. Tu vois, c'est un truc qui est complètement émergent, mais il se trouve que son animation fonctionne comme ça. Moi, c'est des choses auxquelles je suis très sensible. Et ça, c'est un truc.
Alors, tu vois,
si tu l'es, en général, c'est des jeux qui vont te parler.
Mais le truc, c'est que peut-être que je suis pas assez sensible. Moi, j'aime bien ce genre de mécanique, mais je les ai pas trouvées vraiment fortes dans Nier, quoi. J'ai trouvé que justement, tu pouvais, t'as le witch time, enfin, l'esquive.
Ouais, les esquives,
tu l'as fait au bon moment. Et tu peux, d'une certaine manière, presque tricher dans le jeu. Et peut-être que je me suis moi-même, privé d'une expérience de jeu plus satisfaisante, parce qu'au final je me mettais à éviter tout le temps et puis à naviguer
pu jouer de cette manière-là ou d'une autre manière. En fait, il y a pas de bonne et il y a surtout pas de mauvaise façon de jouer, hein.
Mais ce que je trouve, c'est qu'il y a pas de justement ce ballet dont tu parlais, qui est un atout de ce type de jeu. Moi, je l'ai pas trouvé convaincant d'en Nier. Donc comme c'est le cœur du truc et que tu le fais pendant 20 heures et qu'au final, oui, il y a la petite parenthèse de hacking, mais qu'au final, je pense que tu seras d'accord, c'est 20 heures de ce type de combat qui n'évolue, enfin, c'est pas qu'il évolue pas, mais c'est ce type de combat Et voilà, t'as pas d'autres éléments de gameplay.
Bah ouais. D'accord. Mais encore une fois, regarde World of Warcraft, t'as une barre de 1 à 0 et tu cliques dessus quand tu as ton ciblage sur un monde. Et voilà, et ça va durer 2000 heures. Destiny, tu as des couloirs et des ennemis qui sortent de derrière des colonnes et tu leur tires dessus. Et voilà.
Je suis d'accord, mais sur
Tetris, il y a des barres qui tombent et il faut les aligner. Et voilà.
Et quoi, pardon ?
On appelle ça un corps Tetris. T'as des barres, elles tombent du sol, du plafond et il faut les aligner. Et voilà.
Je suis plus d'accord avec Tetris et Destiny. Il y a la boucle de gameplay sur Tetris et Destiny, bah elle évolue pas. Tetris, ça va plus vite. Destiny, il y a des ennemis qui ont plus de vie ou bon, ok. Mais il y a d'autres jeux où t'as un cœur de gameplay. Mais même si on prend par exemple Diablo au hasard, qui pourrait être considéré à peu près équivalent avec un cœur de gameplay, Diablo, ton gameplay évolue vachement. Tu gagnes de nouvelles capacités. Tu vas choisir comment tu es fait évoluer ton arbre de talent. Au début, t'as un monstre qui t'arrive dessus, c'est la fin du monde. Tu pleures. Quand t'as joué quelques dizaines d'heures, tu les exploses par dizaines et tu maîtrises le monde entier. Tu vois.
Ouais, c'est, mais cette évolution. Justement, non, mais le sentiment de puissance, tu l'as aussi puisque tu gagnes des niveaux dans Nier.
Mais j'ai trouvé que tu
changes des
plus.
Armes, tu débloques des armes avec des movesets qui sont, enfin, t'as une qualité. Les armes, elle les tient même pas, en fait, elle les envoie. Tu
ouais,
vois,
tout
t'as
à
un
fait.
Côté
ouais.
très Final Fantasy XV avec un truc très flottant où elle envoie les armes, elle les récupère, elle les fait tourner autour d'elle.
Mais moi, j'ai trouvé que cette évolution était minime, en fait. Tu vois, tu rajoutes des chips, mais peut-être que j'arrive pas à bien l'expliquer, mais je trouve que l'évolution est beaucoup moins importante. Tu parlais de World of Warcraft, bah du niveau 1 au niveau max, bah t'as différents éléments qui viennent modifier un petit peu ton gameplay. Bon, après tu vas jouer pendant des années sur le même niveau max, tu vois, mais il y a quand même les capacités. Peut-être que c'est ça qui me gêne. Il n'y a pas assez de capacités différentes qui viennent alterner un petit peu.
T'as pas été les fouiller, quoi. Parce que les chips, il y a des tonnes de trucs à débloquer. Après, ça devient super drôle. En plus, quand tu commences à jouer un peu sur les combos, à essayer au lieu de faire autre chose que carré, carré, carré et que t'essayes de jouer avec les attaques sautées, etc. Après, c'est un jeu tu vois, c'est un peu, tu vas y trouver ce que t'as envie d'y trouver. C'est-à-dire que si t'as pas envie d'aller chercher plus loin, parce que toi, ça te plaisait pas et que t'as dû te forcer. Ouais. Bah forcément, tu vois, mais c'est pas un reproche, c'est-à-dire que moi ultimement j'adore le jeu.
Je comprends et tu m'expliques beaucoup de choses sur les raisons qui font que j'ai pensé ce que j'ai pensé du jeu, hein, tout à fait.
Ouais, et c'est pas un tort parce que ça reste un jeu de niche, c'est un jeu qui adresse qui s'intéresse à des thématiques qui ne parlent pas à tout le monde. Et si tu n'es pas sensible à ces questions-là, c'est normal de passer à côté. Moi, ça ne me choque pas parce que le cœur du gameplay reste un beat'em all quelconque. Et donc, si t'as pas aimé Devil May Cry, si t'as pas aimé DMC le dernier de Ninja Theory, si t'aimes pas God of War, si t'aimes pas ces trucs-là, pour leur gameplay et pas pour leur mise en scène, forcément tu vas être un peu gêné. Parce que
Ce que je lui reproche, moi, à ce Nier, c'est que justement, peut-être que c'est moi qui suis pas allé chercher cette variété de gameplay. Je suis complètement d'accord. Et dans ces autres jeux dont tu parles, que ça soit Devil May Cry ou God of War ou ce genre de jeu, on te la présente un petit peu plus sur un plateau, la diversité. On te dit voilà nouvelle arme, voilà ton.
Voilà, c'est de la mise en scène. Et donc, en fait, on est dans une relation différente, en fait, qui est légèrement l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de te forcer à chercher, on va te proposer des choses. Et c'est vrai que, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si toi, t'es plus dans le délire d'avoir des trucs un peu narratifs, un peu grand spectacle, etc., t'es plus client d'être pas, non pas passif, parce que ça peut être pris négativement, mais d'être un peu, on va dire, accompagné dans ta découverte des choses, plutôt que de te laisser du mystère, parce qu'il y a tellement de trucs à découvrir. Regarde, il y a toute une séquence dans la fin C ou D, je sais plus, où tu es dans l'usine des robots, et en fait, c'est une course contre la montre, parce que tu as joué la séquence dans un sens, et tu dois passer de l'autre sens, et tu dois réussir à faire réunir les deux personnages au milieu de la zone. Et donc, pour y arriver, tu n'as d'autre choix, quand tu joues, je sais plus si c'est A1 que tu joues ou 9S, c'est 9S du coup, 9S, de contrôler des robots, et de pirater de plus en plus de robots pour pouvoir te rapprocher petit à petit du moment où tu vas enfin recroiser Toubi dans l'autre sens. Et ça, tu vois, c'est des séquences de gameplay qui sont extrêmement variées. T'as tous les passages où le jeu va se jouer sur les angles de caméra, où en permanence il va changer d'angle de caméra pour te forcer à regarder différemment. La variété, elle est là. Il y a des.
Moi, je l'ai trouvé anecdotique. Tu vois, ce passage dont tu parles l'usine où tu dois contrôler justement des robots pour rejoindre Toubi, je l'ai trouvé vraiment.
C'est fou. Hein.
C'est marrant parce qu'en fait, juste pour finir sur ce point, j'ai trouvé que c'était du changement pour du changement, mais en termes de gameplay, je trouve que ça apporte rien. C'est juste
que non. Ok, alors que c'est tellement intégré dans l'histoire. En fait, à ce moment-là du jeu, je sais pas si t'as suivi, mais les robots, en fait, à cause de tes actions, se sont mis à croire en une divinité et à développer une religion spontanément.
Ah
les
non, mais c'est pas à cause de tes actions.
Ben en partie de ce que t'as pu faire ou dire, et en partie avec l'apparition des comment ils s'appellent là, j'ai plus tous les noms en tête, mais à un moment donné, en gros, les robots se mettent à avoir une religion spontanément. Ouais, avec Adam et Ève qui apparaissent, les robots se mettent à avoir une religion spontanément, à devenir des fanatiques et à se suicider en masse.
Ouais.
Et toi, en fait, tu te retrouves en tant que contrôleur robot. T'es un androïde. Tu dois contrôler des robots qui essayent de se suicider et de te tuer parce qu'ils veulent. Ils ont décidé qu'il fallait qu'ils s'immolent par le feu pour pouvoir accéder au paradis, etc. Parce qu'ils ont décidé que les humains étaient leurs dieux et que du coup, il fallait qu'ils arrivent à les rejoindre. Et toi, tu dois réussir à te retrouver au milieu de tout ça, à remonter le truc. Donc, en plus, dans la narration, il y a quand même une intensité qui est très très forte parce que t'es dans une contre-la-montre parce que tous les personnages que tu vas pouvoir contrôler, petit à petit. Ils vont disparaître.
C'est marrant. Et on va venir à l'histoire parce que c'est mon gros point noir. Mais je dirais deux choses sur ce point. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ça fonctionnait pas au niveau du gameplay. J'ai trouvé que c'était creux parce que les robots que tu contrôles finalement font pas vraiment de choses intéressantes au niveau du gameplay tout court.
C'est des robots. C'est des robots qui servaient à faire. Non, mais parce que.
Non, mais je suis d'accord.
C'est toujours une histoire de cohérence avec leur univers. C'est des robots qui étaient juste là au départ pour peut-être, apporter le café ou servir
d'instituteurs
à des enfants. Donc, ils peuvent tirer des
tirs. Attention, les robots, ils sont là parce que c'est les aliens qui les ont amenés, les robots. C'est pas les robots des humains, hein.
Mais de toute façon, les humains, ils n'existent plus.
Bah oui, non, mais c'est ça. Donc, c'était pas pour amener du café à des enfants. C'était les aliens.
Le twist du jeu, c'est que l'humanité n'existe plus.
Donc ils étaient pas là pour être des profs ou des
non,
amener
mais
du café.
C'est juste que je veux dire, la fonction, c'est des petits robots, ils ressemblent à des boîtes de conserve moches.
Oui, tout à fait. Mais du coup, pour moi, c'est entre guillemets, c'est pas une excuse. Je veux dire, si on dit ah oui, mais c'est juste parce que c'est des robots pourris que le gameplay est pourri. Bah oui, mais le gameplay reste pourri. Tu vois, moi en tant que joueur qui suis en train de jouer, cette séquence était pas motivante ou excitante ou intéressante au niveau du gameplay. Donc, mais ceci dit, je dois quand même dire que tout ce que tu m'as expliqué sur le fait d'aller chercher des éléments de gameplay dans les manipulations de 2B ou même de 9S ou de A2, je vais pas aller refaire ce jeu-là, je pense pas. Mais le prochain, je pense que j'irai creuser un petit peu plus parce que je suis conscient que j'ai peut-être raté quelque chose au niveau du gameplay qui m'a empêché d'apprécier le jeu plus que c'était le cas.
Parce que si tu réfléchis, 20 heures pour faire 5 fins, c'est peu, hein. C'est comparé à Nier tout court, c'est pas énorme. Donc tu passes pas tant de temps que ça.
Parlons des fins. Parlons des fins et parlons de l'histoire parce que là c'est mon gros problème. Et là encore je vais faire un petit disclaimer avant de partir dans l'histoire. J'avais une certaine préconception sur ce que j'allais avoir parce qu'on avait tellement parlé des routes différentes. Je pensais que on allait jouer une histoire. Et que ensuite j'allais la rejouer et tu vois éplucher l'oignon et trouver différentes profondeurs à l'histoire et comprendre des trucs que j'avais pas compris la première fois.
Mais en fait
c'est pas du tout ce que j'y ai vu. La route A je l'ai trouvée déjà beaucoup trop longue. Je trouve que 10 heures il y avait du remplissage. Et la route B j'ai trouvé que donc on fait la route A. Avec le premier androïde qui s'appelle 2B et on vit plein de trucs qu'on va peut-être je te laisserai en parler parce que toi tu vas raconter l'histoire que t'as visiblement mieux compris que moi. On vit plein de trucs et puis on fait la route B ensuite, donc à la fin il se passe des choses et on revient au début pour la route B après la fin du jeu et on refait cette première route A en jouant le compagnon de l'androïde qu'on jouait dans la route A. Et donc on refait le jeu, c'est un autre point de vue, mais quand même, 60% c'est la même chose. 60% c'est le même parcours.
Forcément, vu que c'est des moments que t'as déjà vécu.
Tout à fait.
La même histoire, mais du point de vue d'un autre personnage.
Mais pour moi, ce point de vue n'a rien apporté d'intéressant.
Ah bah si, mais non, mais.
Alors, je vais te laisser parler. Ensuite, la route C. C'est la route C et D, c'est la même en fait. La C et D, c'est juste la fin. Il y a un choix qui change deux minutes à la fin. Et la route C, c'est la suite de la route A. Ou la suite de la route A et de la route B qui sont la même. Donc de fait, on a 10 heures de route A, 6 heures de route B, 4 heures de route C et D. Et donc c'est une histoire qui fait, on va dire, 14 heures, qui se suit. Et il n'y a pas vraiment... pour moi, encore une fois, il n'y a pas de vrai approfondissement de ce qui s'y passe, au-delà de considérations philosophiques qui, pour moi, ne tiennent pas et qui sont très, très vagues et qui ne te donnent pas quelque chose de cohérent pour te tenir au niveau de l'histoire et de la narration. Alors ça, c'est la manière dont moi, je l'ai appréhendé. Et clairement, Benoît, toi, t'as une toute autre vision de la chose. Est-ce que tu peux me l'expliquer ?
Non, mais en même temps, comme dit depuis le début, moi, je suis pas dans l'optique de dire t'as tort, t'as rien compris à la
non,
vie.
Non, non, mais pas du tout. Mais moi, je veux que tu comprennes, que tu m'expliques ce qu'il y a à comprendre dans le jeu, en fait. C'est ça.
Moi, dès la route A, en fait, je commençais déjà à ressentir un petit peu parce que des choses pour ces personnages-là, parce que les dialogues sont extrêmement bien écrits. Il y a une, en fait, il faut que tu sois, tu sais, il faut qu'on soit conscient dès le départ que c'est que des êtres qui n'existent pas. Tu vois, ils ont pas d'âme, c'est pas des êtres humains, c'est des robots, c'est des machines.
Et ils ont des questions. Pourquoi ils ont pas d'âme ? Pourquoi c'est pas, enfin, c'est des machines, mais justement, c'est toute la question. Est-ce qu'ils sont conscients?
Ils sont conscients d'eux-mêmes. C'est des intelligences artificielles, mais le fait qu'ils se considèrent pas comme des humains.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est expliqué dès le départ. C'est le Yora, c'est une force armée envoyée par les humains depuis la Lune pour, on va dire, récupérer la planète Terre.
Mais tu vois, c'est ça qui m'a gêné. Ils sont entièrement humains tous dès le début. Enfin, ils n'ont rien de non humain.
Parce qu'en fait, la subtilité de ce jeu est, c'est que les personnages les plus humains sont ceux qui nous ressemblent moins. C'est-à-dire, c'est les robots, ceux qui ont le plus d'émotions, qui ont le plus de questionnements. Pour moi, le jeu démarre quand t'arrives dans le parc d'attractions, que tu commences à voir les robots qui t'envoient, qui dansent, qui chantent, que tu comprends pas trop ce qu'ils font. Et si tu les tapes, ils peuvent se battre contre toi, mais tu peux également les laisser complètement à leur teuf et ils font leur vie et ils s'en portent aussi bien. Mmh. Et après ce passage-là où t'as le fameux boss avec la cantatrice et tout dans la scène qui te balance des robots comme toi qui sont déjà venus essayer de la tuer, avec toute l'histoire qui va se développer petit à petit, parce qu'en plus comme c'est un boss que tu vas refaire 3-4 fois, bah tu vas comprendre petit à petit le questionnement au départ.
3-4 fois, tu l'as fait deux fois. C'est route à l'UB, non?
C'est que dans la route A et B, je sais plus, mais quand tu découvres son histoire dans la deuxième séquence, tu vois, tu peux reprendre un petit peu de... ça te donne du grain à moudre sur quel était ce personnage, comment un robot en est arrivé à devenir d'avoir une vanité au point de vouloir devenir belle, etc. Et comment on en est arrivé à ce délire de devenir une espèce de chanteuse folle qui tue tout le monde.
Ouais. Et après, je vais m'arrêter sur ce point, justement.
Attends,
non, mais sur la cantatrice, c'est important.
Bon, vas-y. Après ce passage-là, le jeu, en fait, bascule complètement. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans un truc classique. T'arrives dans une zone vaguement urbaine avec des élans et des robots qu'il faut défoncer. T'as deux, trois quêtes Osef à base de « va me chercher de l'eau, va me chercher du métal et reviens ». Après, t'as le passage où ça commence à partir un peu en vrille, en mode t'es dans un parc d'attractions et il y a des robots qui chantent et qui sont déguisés en clowns et qui jettent des trucs et tu te fais attaquer par un tank qui est là genre youpi youpi comme ça, tu te dis ok, ça y est, ça commence à devenir chelou. Et après ce passage-là, t'arrives dans un village de robots qui sont auto-déclarés indépendants, qui sont auto-suffisants et qui se sont complètement détachés du réseau global pour pouvoir devenir autonomes et se créer leur propre truc. Et tu te rends compte que les vrais humains, c'est eux. Parce que ils ont tous des émotions, ils ont tous des questionnements, ils se retrouvent perdus. C'est des robots, on leur a pas donné de raison de vivre. Et comme nous, on devrait être, quand on commence à avoir des questionnements un peu métaphysiques dans notre vie, on se retrouve complètement paumé, à pas savoir ce qu'on fout sur Terre, à pas savoir pourquoi on est là, pourquoi on nous a créés. Et ces robots, en fait, se posent ces questions-là en permanence. C'est pour ça que tu vas croiser Jean-Paul Sartre, qui va te discuter, qui va te parler d'existentialisme, tout en étant un fils de pute horrible qui
c'est
se moque de la
Jean-Paul
gueule de ses fans. Bah, t'as tout un arc... annexe avec Sartre qui te demande d'aller d'aller récupérer d'offrir des cadeaux à ses fans parce que les fans sont fanatiques de Jean-Paul Sartre, ils sont complètement ouf et tout. Et Sartre, en fait, il parle d'existentialisme tout en citant Céline de La Condition Humaine. Donc c'est assez c'est vrai que ça demande d'avoir lu ces bouquins là ça demande d'avoir un peu de bagage culturel au niveau philo, au niveau littérature, mais tu te retrouves avec donc le personnage de Pascal qui est profondément empathique, qui est super sympa, qui s'amuse avec les enfants, tu vois des petits robots enfants qui te courent après et qui te regardent et qui jouent et tout. C'est un côté extrêmement mignon, extrêmement attendrissant. Moi, ça m'a parlé à fond, quoi, tu vois, de voir ces petits robots-là.
Alors, tout ce que tu dis, je le comprends, mais moi, je trouve que c'est hyper... je trouve que c'est marrant parce que tout ça, tu trouves qu'il y a une profondeur incroyable, et moi, je trouve qu'au contraire, c'est complètement en surface.
Et pas du tout.
Mais l'histoire de la cantatrice, par exemple, son histoire, pourquoi elle est devenue... Alors, c'est un robot qui est devenu fou et qui veut absolument être super beau, en gros. Tu vois ça au début, bon, c'est juste un robot, un boss de japonais, tu vois, c'est juste une cantatrice qui te balance des robots, qui te balance des lasers, machin, ok. Et tu vas chercher l'histoire derrière dans la deuxième, la route B, donc la deuxième fois que tu fais le jeu, quand tu la pirates. Et c'est l'un des seuls moments où dans la route B, tu vas trouver un truc derrière, entre parenthèses. Hein. C'est pas que dans toute la route, tu vas de tout à coup, parce que tu joues le jeu par le compagnon de ton personnage de la première fois, tout à coup, tu vas voir des choses que t'avais pas vues à chaque moment du truc.
Toute la route B, c'est blindé de moments comme ça.
Mais, absolument
pas.
Je suis complètement...
Mais il y en a partout. Il y en a partout. Dès le début même de la route B où tu vois l'apparition de 9S, comment il est arrivé à attendre Toubi qui est en train d'arriver à attaquer avec les robots et les vaisseaux là, qui vont faire l'attaque. T'as toute la petite scène, rien que la toute petite scène où tu vois les deux petits robots là qui sont en train de crever.
Et
tu dois porter ton petit truc. Bah ouais, mais c'est des moments qui sont poignants.
Écoute,
tu vois, c'est des moments simples.
Laisse-moi. En fait, oui, c'est des moments qui sont poignants.
C'est modeste. C'est un jeu qui est humble, qui va pas te mettre face à des situations what the fuck, qui va alterner des robots géants, gigantesques, machin, avec des petits moments de tranches de vie extrêmement poignants et extrêmement vrais. Et alors effectivement, c'est pas des héros badass.
Mais c'est pas de ça que je parle, Benoît. T'es en train de faire un procès qui est pas justifié. Je suis pas en train de dire qu'il me faudrait des trucs super badass et des trucs. Moi, ce que je reproche, c'est que ces petits moments poignants, effectivement, le moment où tu as au début de la deuxième route, au début de la deuxième route, ce moment où tu as le petit robot qui vient et qui dit qui constate que il y a un autre robot qui est mort et il dit que c'est son il pense que c'est son frère et il va chercher de l'huile pour essayer de le raviver en lui balançant de l'huile dessus et il dit ah mon frère attends je vais te sauver je t'amène de l'huile ça va te avec ça tu vas pouvoir récupérer et tout. Effectivement, c'est un moment qui est émotionnellement chargé. Mais mon problème, c'est qu'il va nulle part. Il y a toutes ces... Et je vais revenir à la question de la cantatrice parce que ça illustre vachement mon propos. Il y a plein de thèmes qui sont balancés, mais à mon sens, un petit peu comme des confettis, comme ça. Ça se raccroche pas. Il y a, par exemple, le thème de la fratrie est présent partout dans le jeu. Adam et Ève, il y en a... à plein de d'occasions, ils vont parler de le frère qui a dit ci, qui a dit ça. Et pour moi, c'est des trucs qui sont juste là. Enfin, parlons de la cantatrice. La raison pour laquelle elle veut devenir belle, c'est il y a une sorte de dialogue qui est même pas un dialogue, qui est un monologue où elle s'adresse à un autre robot. Au début, elle est juste un robot. Normal, donc le petit bidon là, et elle dit ah pourquoi tu ne me regardes pas, tu veux que je sois plus belle donc je vais me rendre plus belle, et c'est ça sur, je sais pas, une minute de monologue, et elle devient de plus en plus folle à essayer d'être plus belle. Quoi de plus simple, de plus trivial, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas une profondeur philosophique derrière ce truc. C'est juste un type qui dit, enfin, une scène d'exposition où on va pas t'expliquer comment ce robot est devenu complètement déjanté et devenu cette cantatrice ballerine étrange et qui est effectivement un design un peu fascinant. On va juste dire, oh bah elle est devenue comme ça parce qu'elle voulait être belle.
Voilà, mais c'est comme beaucoup de questionnements de la science-fiction, tu vois, c'est des trucs où en fait ils vont utiliser des robots, des aliens ou ce que tu veux pour nous renvoyer à notre propre condition. C'est encore une fois un robot qui va se demander bah, comment se faire remarquer de ses autres, comment réagir avec son entourage, comment faire en sorte que l'autre robot qu'elle aime et qu'elle aimerait, qu'il apprécie, la voit, et elle est obligée de se mettre à tuer les autres robots pour pouvoir leur piquer des parts.
Mais ça n'a aucun sens.
Mais c'est enfin, pas l'histoire d'avoir du sens.
C'est ça, tu vois, qui me gêne, en fait. C'est ça qui me gêne, c'est que tu...
Pourquoi les choses devraient avoir un sens, en fait? L'intégralité du jeu est une explication, est une réflexion de l'auteur sur le fait que on cherche un sens à notre vie. On cherche un sens dans ce qu'on essaye de faire en tant qu'être humain, etc. Et peut-être qu'en fait, il n'y en a pas. Tu vois, c'est un peu le même propos que The Witness. C'est à peu près la même chose. On est toujours à la recherche de quelque chose, mais peut-être qu'en fait, il n'y a rien. Et c'est ça, le questionnement de l'auteur. C'est juste une réflexion sur l'idée que, eh ben, est-ce que notre condition humaine de chercher alors que ça sert à rien, est-ce qu'on ferait pas mieux de se détacher de ça? Parce qu'à force de vouloir rechercher, à vouloir être beau, à vouloir être ceci, à vouloir être cela, on fait du mal aux autres. Et on oublie en fait ce qui est important, parce qu'à la fin, l'autre robot, il est toujours avec sa petite fleur là, le robot dont elle est amoureuse, et elle le trouve complètement laid parce que lui, il est pas parti dans son délire, il est pas parti dans son truc. Et tu vois, c'est une espèce d'image de relation dans laquelle les deux compagnons vont plus être sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui va suivre une voie et l'autre va suivre une autre voie, et à la fin, ils se rendent compte que même s'ils étaient partis ensemble, ils vont être obligés de se séparer parce que c'est terminé leur relation. Tu vois, ça me renvoie à tout un tas de choses qu'on vit dans notre vie au quotidien.
Sauf que moi, c'est pas du tout ce que j'y ai vu, et je crois que, comme toutes ces œuvres d'auteurs, évidemment que dans une œuvre, on va y mettre de soi, et c'est le même, je dirais, le principe d'une œuvre réussie, c'est que forcément le spectateur, l'auditeur, le quoi que ce soit, va y mettre de son expérience et de son interprétation. Mais il faut quand même qu'il y ait, pour moi, un minimum de cohérence et de discours de l'artiste. Et pour moi, comment dire ? Pour moi, c'est un petit peu lost, ce jeu. Tu vois, il t'envoie. Non, mais je sais, je comprends. Par exemple, un truc, et je sais que tu vas me dire que je m'attache à des détails, mais ça me sort du truc complètement. Quand on finit par découvrir Pascal, qui est un robot qui a une conscience.
En 2-3 heures, grand max. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Grand max, enfin, c'est un truc qui, c'est le début du jeu. Hein.
Bien sûr. Mais quand on quand on découvre Pascal. Non, mais mon propos, c'est pas le temps que ça prend. Mon propos, c'est qu'on rencontre un robot qui a une conscience. Et ça, c'est un cataclysme, normalement, pour les androïdes. Parce que depuis le début du jeu, on te dit que les robots, justement, ils alignent des mots complètement de manière presque aléatoire, ils répètent des choses qu'ils ont entendues ailleurs, et j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, donc je vais devoir m'absenter un instant, je reviens tout de suite, pardon, et donc me revoilà. Donc, on découvre, enfin, pour les androïdes, les robots n'ont pas de conscience, et c'est hyper important, justement, parce que ils ont aucune culpabilité à tuer les robots et à les détruire, parce que c'est des machines. Et d'ailleurs, le terme de Kikai Seime, je crois, en japonais, c'est des machines, des formes de vie mécaniques, si on veut faire une traduction exacte. Donc c'est des formes de vie mécaniques, mais c'est pas des formes conscientes. Et donc c'est un point hyper important dans le début du jeu. On finit par découvrir Pascal. Là c'est un petit peu, mais c'est un cataclysme dans la vision du monde qu'ont les androïdes. Et là, tu devrais te dire, mais à une seconde, on arrête tout, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Les robots, ils ont une conscience, ou certains ont réussi à atteindre la conscience. Et là, tu retournes au camp de la résistance, Et l'androïde qui était là, le chef, il te dit « Ah bah oui, Pascal, on fait du commerce depuis longtemps, il est sympa, Pascal. » Et pour moi, mais ça m'a... C'était criminel, quoi. Parce que...
Mais pas du tout. Ah, mais c'était... pas du tout. Mais non, mais parce que là, on se retrouve exactement dans toutes les situations de guerre les plus folles dont on parle de plus en plus désormais, où on se retrouve avec le, la fameuse scène de Noël pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées, où bêtement, t'as deux camps qui sont opposés depuis tellement longtemps qu'ils ont même oublié pourquoi ils continuaient de se battre, et qui se retrouvent à être d'un moment, bah, simplement à coopérer, parce qu'ils ont juste envie de vivre et qu'ils en ont rien
mais,
à branler.
Mais absolument pas, la situation est complètement différente. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Parce que
la résistance, ils se battent pas, ils foutent rien, ils sont perdus dans leur village, ils branlent rien.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait, et c'est pour ça que je parle de cohérence en permanence, le fait qu'il y ait des robots qui ont développé une conscience, ça, ça sape entièrement la raison d'être de la guerre. Et tu peux pas dire, ah bah oui, mais en fait, c'est parce qu'ils se battent depuis tellement longtemps qu'ils continuent à se battre. C'est pas possible, ça, je veux dire, c'est pas cohérent.
Ah, si, tu veux qu'on parle de situation dans laquelle c'est comme ça en vrai? Mais c'est non. Des gens, ils continuent à se battre depuis 130 ans.
Et non, mais là, on parle de, on n'est pas en train de parler d'humains, justement. C'est tout le cœur du problème. Les robots ne sont pas humains. Tu vois?
Et. Mais qu'est-ce que t'en sais?
Non mais c'est, regarde, c'est justement mais ils ont non, pas de conscience, non, ils ont pas de conscience, c'est ça le cœur du truc. Oh.
C'est ça qui est intéressant dans Nier Automata, c'est parce que justement, ils s'amusent en fait à jouer avec tes préconceptions sur ce qui se passe dans la tête d'un robot. Ils s'amusent à jouer
avec
ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Pascal justement, il serait humain en quelque sorte. On pourrait se poser la question, tu vois. On se dit mais attends une seconde, là, s'il y avait une once de cohérence dans la l'avancée du truc, quand tu vois Pascal, tu arrêtes tout quoi. Parce que tu dis, oh, bon, attendez, on va y réfléchir deux secondes, on va se demander, est-ce que ces robots sont en train de devenir quelque chose? Est-ce que ils ont développé une conscience? Est-ce qu'ils sont devenus sentient? Je sais pas comment on dit en français. Et moi, ce qui m'a poignardé dans le dos, c'est que, effectivement, les androïdes le savaient déjà, alors que, enfin, je sais pas, c'est comme si on se disait,
ceux qui sont sur Terre le savaient déjà, ouais.
Mais oui, mais c'est, enfin, ils sont en communication constante avec le bunker.
Il y a, bah ouais.
Et mais enfin tu le dis, je sais pas, c'est comme si je sortais demain dans la rue et je découvre qu'il y a je sais pas, il y a Superman qui descend du ciel et qui me dit bonjour. Et je fais ah ouais, salut, OK, comment ça va?
Bah
et
non, puis
je
toi, dis enfin tu le dis aux gens quoi. Et peut-être que le reste de l'humanité était déjà au courant et en fait, il y avait que toi qui le savais pas. Et il se retrouve dans cette situation là, Toby et Neufess, où il se pose énormément de questions. Un truc qu'il faut absolument suivre dans, quand tu joues à Nier Automata, c'est les échanges entre les personnages. Les dialogues sont essentiels. Toi qui en plus as la chance de peut-être comprendre un peu mieux le japonais, il y a énormément de choses qui se passent entre les deux qui sont extrêmement drôles. Il y a un humour, il y a une espèce de second degré permanent avec Neufess qui essaye d'être super cool, qui a une personnalité chelou alors qu'elle a été programmée et qui est un peu bizarre, avec Toby qui essaye de lutter en permanence contre ses envies d'empathie. Et le fait qu'il rencontre Pascal les met face à cette situation où ils sont obligés de coopérer avec eux parce qu'en fait il y a une urgence qui se crée à ce moment-là et il y a quand même des robots qui deviennent tarés. Et petit à petit, l'idée s'installe dans leur esprit que il y a des robots qui sont devenus cool et qui sont pacifiques, et dans ce cas-là, comme ils ne représentent pas de menace, eh ben ils ne les attaquent plus, et petit à petit ils arrêtent de vouloir les tuer. Mais tu peux très bien choisir à ce moment-là du jeu, et je pense que tu t'es peut-être pas conscient, tu peux choisir à ce moment-là du jeu de décimer l'intégralité du village dans la forêt. Si tu décides de les attaquer, tu peux le faire à n'importe quel moment.
Bah OK, super.
Tu peux les tuer et dans ce cas-là, le jeu continue et tu vas débloquer d'autres fins. Tu peux très bien décider de te dire, bah moi je suis un soldat, les Yora dans la base spatiale, ils m'ont dit il faut détruire les robots, je suis con, je détruis les robots. Mais rien ne t'empêche.
Mais je trouve pas que ça soit. Ouais. Ouais.
Mais
bah,
c'est
je
le
suis...
début du jeu, tout le reste derrière. Les...
Bon alors parlons du reste justement. Parlons du reste justement.
Questionnement.
Ouais. Comment tu expliques Adam et Ève justement? Moi j'ai trouvé ça juste hyper. J'ai eu l'impression de voir un japonais qui picore dans la culture occidentale et qui se dit « Ah ouais, Adam et Ève, c'est cool, on va foutre Adam et Ève ici. » et oui, et il y a la pomme, et il y a le... Enfin, les robots, tu disais, c'est le premier moment où il y a un truc où on se rend compte qu'ils sont humains, quand tu parlais du parc d'attractions. Mais il y a quand même, encore plus tôt quand on va dans le désert, après peut-être une heure de jeu... On va dans le désert, on découvre des robots qui sont en train de simuler le fait de faire l'amour. Et ils font, et en gros, c'est les robots
oui,
qui sont en train.
Scène,
tu te souviens?
Oui, bien sûr.
Et donc, bon, évidemment, c'est les robots qui sont encore une fois des sortes de barils qui sont allongés l'un sur l'autre et en train de faire, vas-y, je suis en train de te prendre, etc. Et bon, tu te bats contre eux, et puis à un moment, se réunissent, et il y a un truc qui sort d'eux, en quelque sorte, qui est une sorte de machine en forme d'androïde, en forme humaine, sauf qu'elle a pas de partie génitale. Et quand tu le bats, il y a un autre de ceux-là qui sort de sa côte, en fait, c'est Ève qui sort de la côte d'Adam. Et au-delà de l'imagerie biblique, je suis... Alors, peut-être que c'est moi qui ai pas compris et que je serais heureux que tu m'expliques le parcours, l'importance de Adam et Ève, au-delà du fait qu'ils ont... ils sont là, ils ont... tuer leur créateur et à la fin c'est un autre truc qui m'a énormément gêné. On parlait de la des poncifs du jeu japonais, à chaque coup il y a le méchant qui vient très méchant qui hurle et qui se met à rire. J'aurais trouvé ça tellement intéressant si c'était pas les méchants qui se transforment, qui finissent par dire la vie n'a aucun sens donc je vais tuer le monde entier. C'est tellement caricatural du jeu japonais,
vois. Je peux te citer 36 millions de jeux occidentaux qui sont aussi nuls à chier et qui balancent les mêmes clichés toujours en permanence de vengeance, de machin.
Complètement. De méchants. Mais je suis complètement d'accord.
Mais c'est pas là, en fait, les persos d'Adam et Ève, c'est pas des persos, c'est pas des persos centraux, de l'histoire.
C'est les persos centraux de la fin A et B, excuse-moi, c'est 16 heures de jeu, quoi.
On n'a pas joué au même jeu. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de suivre le développement. Moi, ce qui m'a plu, c'est de suivre le développement de Nefes et Toby, parce qu'ils se retrouvent face à
Adam
une espèce
et Eve, c'est
de annexe, conscience.
Quoi.
Mais non, c'est... Attends, laisse-moi finir. C'est t'as ces personnages-là qui apparaissent spontanément après qu'il y ait des robots qui essayent de se reproduire, tu vois. On est toujours dans cette espèce de reproduction étrange d'un monde qu'il a inventé, dans lequel les robots sont complètement débarrassés de l'humanité, puisqu'elle a été complètement détruite, elle n'existe plus, on l'apprend que plus tard, et qui essayent de se retrouver un sens. Et pour y arriver, ils font des trucs complètement débiles, ils font des trucs complètement grotesques et absurdes, et ils se basent, en fait, sur les fondements de l'humanité. Et ils reproduisent des trucs que nous, on a fait à l'époque. Et ils essayent de reproduire. En fait, tout au long du jeu, tu vois la civilisation robot qui évolue et qui fait des trucs que nous, on a fait.
Je suis complètement
d'accord. Et qui se posent les mêmes questions et qui se retrouvent face à des mêmes questionnements nous, par rapport à la religion, par rapport à la notion de famille,
par rapport
à la notion
de guerre. Cette histoire de religion où ils deviennent fous et ils finissent par se suicider.
Ça sort pas de nulle part. Tous les dialogues t'amènent petit à petit cette façon ou cette prise de conscience des robots qui prennent conscience de l'humanité et de l'importance qu'elle aurait, parce que c'est devenu une espèce de légende aujourd'hui. L'humanité, c'est devenu plus qu'une légende. Ils savent plus vraiment à quoi ça correspond. Plus personne sait exactement ce que c'est un humain, à tel point que les androïdes, quand ils parlent à Pascal ou quoi, ils se disent, ils sont peut-être un peu humains. Alors que physiquement, tu vois, les androïdes ils sont anthropomorphes et les robots ne le sont pas, et pourtant ils sont beaucoup plus humains que les androïdes, et parce que justement le jeu s'amuse à jouer avec ça.
Mais je trouve pas, 9S il est complètement humain. 2B elle est un petit peu rigide, encore une fois dans un poncif du héros ou de l'héroïde japonaise, c'est exactement la même chose. Mais 9S il est complètement humain, il fait des blagues, il est en plus gêné par son opérateur qui est hyper rigide et qui est robotique et lui, il essaye
en fait justement de se sortir de ça, et finalement à la fin il devient complètement barré. Il pète une durite au bout d'un moment, quoi.
Comme tous les méchants de jeux vidéo japonais de l'histoire. C'est ça qui
si ton résumé c'est ça, écoute, Uncharted c'est de la merde comme tous les jeux occidentaux depuis l'histoire, parce que c'est le héros badass qui va tuer tous les méchants étrangers, si en plus ils ont un accent arabe ou quoi que ce soit, c'est forcément plus des méchants.
Je comprends qu'on fasse cette analyse de Uncharted.
En fait, il essaye de te mettre face à des questions. Il pose des questions au joueur. Il te dit pas je vais te donner une réponse, il est pas là pour t'expliquer des trucs. Le jeu, il est pas là pour te dire la vie c'est ça. Tu vois, il est là pour qu'est-ce qui se passerait si on vivait dans un monde où il y aurait ça? Qu'est-ce que ça va sous-entendre pour nous, l'humanité, quand on va commencer à faire des robots qui vont nous ressembler tellement qu'on va plus faire les différences? Et il pose tous ces questionnements-là.
Je ne veux absolument pas avoir
à participer à un rendez-vous jeu dans un an ou deux ans, quand cette saloperie Beyond humain, je sais pas quoi, Détroit mes couilles, va sortir, parce que c'est écrit par le premier des charlatans de l'univers du jeu vidéo, et que ça va être mal amené. Le mec, il est déjà en train de nous expliquer qu'on a le droit de taper sur sa femme et ses enfants, etc., et que c'est tout à fait... C'est nul à chier à l'avance, comme tous les jeux Quantic Dream depuis la nuit des temps, et Et là, tous les questionnements sur la robotique, sur le transhumanisme, sur l'évolution de l'humanité, est-ce qu'on va pouvoir devenir en tant qu'espèce maintenant qu'on a accès à une technologie qui nous permet de recréer des choses qui nous ressemblent, ça va pas du tout être abordé de la bonne manière. Ça va être abordé de manière complètement what the fuck, débile, avec des personnages, etc. Alors que là, c'est des questionnements qui sont bon, bêtes,
on parlera de Detroit Beyond Human quand il sera sorti et quand on y aura joué peut-être. Mais
bon, jouer, c'est
vite. Oui, quand on l'aura expérimenté.
Quand on aura appuyé sur des boutons et qu'il se passe des trucs.
mais sur moi, ce qui me gêne sur Nier Automata, c'est que tout ce que tu dis est intéressant. Mais moi, tu sais, on a vu le même jeu. Mais on n'a pas vu la même chose, quoi. Moi, j'y vois des vignettes superficielles de tout ce dont tu parles, mais qui sont mal amenées et qui sont en plus polluées par des incohérences qu'on est obligé d'éviter si on veut parler de ce qui, moi, m'intéresse, qui est beaucoup plus terre-à-terre, et je le conçois. Mais le fait, par exemple, qu'ils arrivent à un moment dans des complexes d'immeubles et ils disent « Ah, mais... quels sont ces bâtiments étranges? Je ne comprends pas. » Et là, t'as le robot qui dit « Oui, au moment de l'âge d'or de l'humanité, ils se réunissaient dans ce qu'on appelle des immeubles. » Et là, ils font « Oh, des immeubles! Mais c'est fou! Mais connasse, t'habites dans ton bunker, c'est un immeuble. Enfin, évidemment que tu connais ces concepts.
Bah » Donc elle c'est mal. Dans une machine concepts... qui distribue du coca et elle peut se téléporter. Enfin,
c'est... mais, non, mais je veux dire, les concepts sont à mon sens... effleuré, oui, et on peut pas parler
de n'importe quel dialogue de l'univers, tu le dis ouais. De cette manière-là, tu le rends ridicule.
Oui, je suis conscient. En fait, je suis d'accord que j'abuse un petit peu.
Nier Automata, c'est pas qu'il aborde les choses en surface, c'est que il te propose des pistes et des questionnements. Et si tu n'y es pas sensible, et si tu ne t'intéresses pas au truc, bah forcément, tu t'en bats les couilles de leurs réflexions philosophiques. Comme la plupart des gens, des fois, ils s'en foutent des réflexions philosophiques. Tu regardes le cinéma d'auteur japonais moderne, des fois, c'est des trucs simplement sur l'abandon, simplement sur la vengeance, sur des thématiques qui sont finalement peut-être moins grandiloquentes que ce qu'on peut voir dans d'autres types de jeux. Et c'est sûr qu'à la fin, l'humanité, de toute façon, elle a détruit, donc on s'en bat les couilles de sommer la planète Terre, et puis de toute façon, il n'y a aucun sens à la vie, etc. Alors qu'effectivement, plutôt dans les jeux occidentaux, c'est oh là là, on a sauvé le monde, je suis tout seul face
mais
au reste
pas forcément
du monde,
non mais tu parles de deux types de trucs différents il y a des jeux...
pour donner un exemple très bête
je suis d'accord ouais.
C'est-à-dire de poser ce que je veux dire c'est que il pose un tas de questions, l'auteur se pose un tas de questions, il te propose d'y participer en te donnant des éléments de réponse qui sont parfois un peu grotesques, un peu mal amenés ou quoi que ce soit, et après bah c'est à toi un peu de te faire ta sauce quoi. Le jeu te laisse la possibilité de le faire. Tu peux pas reprocher au jeu de pas t'amener à le faire.
Bah oui et non, je trouve que il est possible qu'on ait ce but noble mais de ne pas y arriver aussi, tu vois, et il est possible d'avoir des exemples de trucs qui, enfin, pour moi, il y a des trucs, par exemple, tu vas dire que je m'attache aux détails, mais les tours qui arrivent dans la fin C, tu vois, je me suis dit, waouh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je pensais qu'il allait y avoir un lien avec les voix de, tu sais, c'est la voix qui te dit, ah, bienvenue à la tour, machin, ça, et c'est une voix un petit peu comme les voix qu'on a au Japon dans les department stores, dans les grands magasins. Tu vois, c'est un petit peu, et ça te dit, ah, bienvenue à la tour, pour arriver à rentrer dans la tour, vous devez ouvrir les sous-tours ici et là, et pour les ouvrir, vous devez aller faire tel et tel truc. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est un truc qui a un rapport avec les restes de l'humanité ou l'évolution des robots, est-ce que ce qui s'est transmis, est-ce qui machin? Et en fait, ça n'a aucune raison d'être. C'est juste que, encore une fois, pour moi, toi, je suis sûr que tu vas y trouver une interprétation, mais pour moi, c'est juste quelqu'un qui s'est dit, ah, ça serait super cool de mettre un truc what the fuck ici, donc on va faire une voix de grand magasin, et ça va être marrant parce que c'est la tour et il y a un contraste avec la situation qui est hyper dramatique. Mais c'est juste un truc cool. Et tu vois des jeux qui parlent de ce genre de truc, il y en a d'autres. Il y a des jeux qui te font te poser des questions. Enfin, on évoquait Stanley Parable par exemple. Pour moi, c'est un jeu qui effectivement t'amène à te poser des questions. Alors oui, on est beaucoup plus guidé, je pense, mais il t'amène à te faire te poser des questions.
C'est même le
aussi,
fond du jeu, c'est de te faire croire. The Stanley Parable, c'est l'illusion de la liberté. C'est une parabole sur l'illusion de la liberté et du choix.
C'est forcément. Mais le jeu te peut-être que c'est enfin. Peut-être que je suis pas assez, comment dire, que je suis pas allé chercher assez loin pour y trouver ce qu'il y avait à y trouver dans Nier Automata, mais.
En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est toujours ce que je disais depuis le départ. C'est d'une, pourquoi tu t'es infligé ça si t'aimais pas? Parce que ok, il y a le côté culture, mais au bout d'un moment, tu vois, je veux dire, moi je suis testeur, c'est mon métier. Si j'ai pas besoin de jouer 100 heures à un jeu, au bout de 10 heures, si c'est de la merde, c'est de la merde. Un jeu qui change au bout de 40 ou 50 heures, ça reste de l'arnaque. Ça reste de l'arnaque. Parce que on va pas te vendre un jeu en te disant oui mais le endgame, oui mais si tu joues 2000 heures, tu comprends pas, c'est vachement bien. Non, ça marche pas comme ça.
Non, mais t'as raison d'une certaine manière, mais c'est vraiment une exception que j'ai fait pour Nier Automata parce que c'était, enfin, je te dis.
Je pense que tu t'en es construit, tu vois, une image qui est.
Peut-être,
qui est,
oui.
C'est pas un jeu qui va révolutionner l'histoire de l'humanité. C'est juste un jeu que j'ai trouvé, moi, intelligent, sensible, tu vois, assez humble, finalement, dans son approche, parce qu'il fait des trucs, des fois, qui sont, comme tu dis, genre, pas très cohérents, genre, mais c'est débile, pourquoi ils font ça, etc. Mais parce que, justement, le jeu, en fait, se pose lui-même des questions sur ce qu'on fait. Est-ce que ça a vraiment du sens, ce qu'on fait? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que là, nous, on est en train de faire du podcast, etc., est-ce que c'est vraiment si intéressant? Alors oui, ça peut paraître être des questions de philosophie de comptoir, mais le fait est qu'il apporte quand même des réflexions assez intéressantes, avec des points de vue que j'ai trouvé, moi, originaux, sur le traitement de ce que c'est le robot, etc. Alors que les Japonais, putain, les androïdes et les robots, ça fait 1000 ans qu'ils nous en parlent, quoi. Tu vois, ils sont obsédés par ce truc-là depuis toujours, et lui, il arrive quand même à apporter un petit twist en disant ceux qu'on pensait être le moins robotique, enfin les moins humains, c'est finalement ceux qui sont les plus sensibles, qu'ils sont capables de faire du sacrifice, qu'ils sont capables de recréer des constructions humaines, parce qu'en fait, étant immortels, ils essayent d'accéder à l'humanité en perdant tout ça et en se suicidant en boucle, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se mélangent. Alors, je peux
pourquoi
comprendre.
Ils se mettent à manger les uns les autres à un moment aussi. Tu vois, c'est juste un. C'est en ce sens, tu sais, je disais, je trouve que ce jeu est malhonnête parce que sur ces trucs-là, je trouve que il a des moments où il fait juste des trucs parce que c'est cool et ça va évoquer quelque chose quelque part. Et c'est moi qui lui prête peut-être une intention ou un manque d'intention qui est complètement qui m'est personnel. Peut-être que Yoko Taro avait entièrement pensé l'ensemble de son truc et d'une certaine manière, au fond, je pense qu'il l'a. Oui, t'as raison.
Non, regarde, mais on a ouvert cette longue discussion sur la fin E avec tout ce que ça charrie d'émotions, de sentiments, de symboles et de liens entre les joueurs. Le type, il a commencé à réfléchir, à challenger son propre média en se disant, bah tiens, comment on va donner un sens concret à quelque chose de virtuel. Et quelqu'un qui est capable de te faire ça, alors que ça prend 20 heures ou 22 heures et que la plupart des gens sont même pas fait chier à aller jusque là, évidemment que tout le reste qui était avant, il le maîtrisait de bout en bout. Il fait semblant parce que il est très humble et il se joue de cette humilité faussement japonaise, où il dit, oh, c'est pas moi, j'ai pas fait ci, etc. Mais le mec, c'est un contrôle freak de malade. Chaque détail du jeu, il va vérifier le fait que quand tu regardes la petite cuillère de Kobe, elle te met une claque. Le fait que quand tu joues avec le petit robot, tu peux lui mettre des petits trucs sur la tête. Tous ces petits détails-là, sont des trucs qui ont été mûrement réfléchis et décidés, évidemment. Et
le coup des robots qui se mangent eux-mêmes, alors, c'est quoi? Enfin, qui se mangent eux-mêmes, qui deviennent cannibales.
Quand ils se mettent à se détruire entre eux, je sais plus.
Non, mais ils se mettent à se manger, spécifiquement à se manger.
À se manger, je sais plus. Quel manger, c'est quoi? C'est la tribu de la forêt, là, qui vit dans le château?
Ah, mais tous, à un moment, ils finissent par se, à un moment, il y a des robots qui arrivent un petit peu partout et qui se mettent à manger. Et notamment, c'est comme ça que le village de Pascal est détruit.
C'est comme ça que t'accompagnes Pascal jusqu'à l'usine et que Pascal meurt et tout le bordel, quoi.
Oui.
Je sais plus exactement. J'ai pas une interprétation pour l'intégralité des aspects du jeu. Parce que, après, comme je t'ai dit, moi, je voyais une civilisation qui se créait à partir de rien, qui savait pas pourquoi elle était là et qui se posait des questions que nous aussi on se pose. Et qui se pose la question des limites de la morale, des limites de trucs. Enfin, mais c'est encore une fois, c'est des questionnements qui, je trouve pas qu'ils soient mal amenés. Je peux comprendre que ça te parle pas, tu vois. Mais c'est tellement un truc qui est cohérent, qui est global. On va dire qui a été envisagé de manière globale par l'équipe derrière, que c'est pas gratuit. Tu vois, c'est pas des wide-liners qui vont te balancer en plein milieu du genre. Et au fait, Bobby, tu vois, de Call of Duty, est-ce que c'est si bien de tuer des Allemands, tu vois? Genre,
non, mais bien sûr, mais ça, mais enfin, c'est même
c'est
pas le propos.
Amené comme
mais...
ça au pif, comme.
Non,
comme
mais bien sûr. Non, mais tu vois, moi, ce qui m'a.
Il y a un objectif, quoi.
J'aurais adoré jouer au jeu que tu décris, en fait. Mais pour moi.
Moi, j'ai joué, je suis désolé que tu aies pas joué.
Clairement. Mais pour moi, le jeu a été vraiment cette aspect du jeu a été dilué dans Adam et Ève et je sais plus lequel survit mais il devient fou et il se coupe du réseau et il meurt tout seul et l'autre ensuite il devient une sorte de monstre et tu vois il y a tous ces aspects pas jeux vidéo mais il y a tous ces aspects déconnectés du propos de fond qui à mon sens font que le jeu est trop long, il est pas. C'est à la fois une force et une faiblesse. Il est pas clair dans son propos. Au final, si je dois dire mon reproche au jeu, ça serait qu'il est pas assez clair dans ses propos, dans son propos. Je pense pas qu'il faut tout épeler, comme on dit en anglais. Il faut pas spell out everything. On n'a pas besoin de tout épeler exactement. Mais là, il laisse tellement à l'interprétation du joueur qu'on se retrouve à dire, ah ben oui, mais là, il se pose des questions. Et il y a Pascal et Killy Nietzsche. Et il y a Adam et Ève qui mangent des pommes. Et il y a machin. Et c'est trop fluide, tu vois, pour moi, pour que je puisse me reposer dessus. Et non, mais ça, je suis conscient, hein, que ça soit très personnel, quoi.
Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment une bête question de sensibilité, parce que, tu vois, on pourrait jamais avoir un discours aussi long et aussi passionné sur,
Uncharted,
la grande majorité des jeux occidentaux, tu vois.
Non, je suis d'accord, je suis d'accord.
Tu vois, Uncharted, bon, bah, Nathan Drake, voilà, bon, finalement, il est amoureux de la blonde plutôt que de la brune, puis à la fin, il a une gamine, quoi. Voilà. Super.
Ouais, bon, je pourrais en parler un petit peu plus longuement.
Non, mais c'est pas des personnages qui sont beaucoup plus complexes, parce que après, le fait qu'il laisse cette part d'interprétation, c'est le postulat de départ. Et c'est vrai que si toi, ça te gêne, tu restes sur ta faim. Alors que justement, moi, ça m'intéresse, parce que en tant que joueur, moi, j'aime bien avoir la main mise sur ce que je fais, et le jeu te laisse le contrôle sur tout. Tu peux choisir les options du jeu, c'est les options en fait de Tooby, comment elle va être gérée. Tu peux la tuer à tout moment si t'as décidé d'en avoir ras-le-bol. Tu peux choisir de détruire un village de robots alors qu'en fait ça pouvait être tes potes et ils allaient te filer des quêtes annexes pendant 400 ans.
Ouais, mais l'histoire continue pas si tu fais ça. Enfin, c'est, oui, tu peux le choisir, mais c'est un gimmick, tu vois. C'est,
non, c'est pas qu'un gimmick, c'est un choix. Ouais. Des fois, quand on fait des choix dans la vraie vie, les conséquences elles sont irrémédiables. C'est encore une fois, tu peux faire des parallèles avec des choses très triviales, très bêtes. Moi, c'est pour ça. Je trouve que c'est un jeu qui est très humain, tu vois, dans sa manière d'aborder les choses. Après, c'est pas grandiloquent. Il y a une incohérence qui est assez flagrante entre le côté grandeur des robots, des machins. C'est un peu bizarre. Tu te dis, mais pourquoi ils ont besoin de taper des gros robots pour faire tout ça? Mais parce que justement, il y a ce côté un peu ridicule. Et je pense que quand on est déjà soi-même un peu convaincu que la vie, c'est une grande farce, comme je peux l'être, forcément, c'est un jeu qui met en scène tout ça. Et moi, ça parle, tu vois. Mais c'est ça. C'est-à-dire que derrière, si t'as besoin de cohérence, si t'as besoin de choses auxquelles te raccrocher, de valeurs, de machins, de bidules, tu dois te dire, mais c'est quoi ces uluberlus, quoi? C'est quoi ces zoulous, là, qui sont en train de faire je sais pas quoi avec des robots? Ils essayent de se reproduire alors qu'ils ont même pas de zouzou. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, je peux comprendre.
Ouais, mais j'irai pas, mais
tu vois. Je pourrais pas admettre, si tu veux, que c'est mal amené ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est il amène une vision sur le monde que si tu la partages pas un tout petit peu au départ, forcément tu risques d'y être hermétique. Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours dit que le jeu, c'est un jeu de niche. C'est vraiment, et lui-même le dit, c'est-à-dire que c'est, tu vois, on est peut-être très nombreux aujourd'hui à dire que le jeu est vraiment génialissime. Je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord pour aimer le jeu pour les mêmes manières, pour les mêmes raisons, pardon. Et je sais que vous êtes très nombreux à pas l'aimer, hein. Faut pas que tu te crois seul, au contraire, hein. Loin de là. Mais, le fait est que il amène tellement de trucs sur la discussion, il remet tellement de codes en cause avec sa façon de gérer la narration, de gérer justement le rapport au réel entre le jeu, etc., que mine de rien, ça reste un jeu sur lequel tu t'es senti obligé de créer une émission juste pour ça.
Donc, complètement, oui.
Quelque part, pour moi, le résultat est accompli à un moment donné, quoi.
Bon, je vais juste préciser que c'est pas sur l'histoire de quand ils sont en train de baiser, je me suis pas dit « Oh, mais pourquoi ils font ça? Ils ont pas de zouzou ?» Bon, je vais quand même aller un petit peu plus loin.
C'est moi qui caricature.
Et sur Uncharted, je pourrais en parler aussi un petit peu plus longuement. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de grandes considérations philosophiques, mais il y a quand même quelques thèmes sur la manière dont on grandit en tant que qu'humain, enfin en tant qu'homme et en tant que femme, qui sont intéressantes. Maintenant, je suis d'accord, pas un grand jeu philosophique.
Et ça fait partie, et c'est dans le haut du panier des jeux occidentaux, pour moi, Uncharted. C'est pour ça que je l'ai cité, The Last of Us, tu vois, c'est un jeu que j'adore et qui, justement, apporte ce côté un peu interprétation que je trouve très cool.
Je dirais que Last of Us a carrément un parcours qui est, qui lui aussi justifie toute sa longueur par sa fin, dans un twist qui est limite voisin de ce qu'on voit dans Nier Automata, parce que tout ce que t'as fait, ça te construit quelque chose, et puis après t'es face à un choix qui t'est imposé, donc c'est un petit peu différent, mais qui te fait considérer les choses de manière différente aussi. Mais c'est quand même particulier, quoi, The Last of Us.
Et là, on fait des tas de choses et à la fin on meurt, quoi, c'est tout, hein. On fait des tas de trucs, on gesticule. Là, nous, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, c'est sans ça, c'est toujours ces réflexions-là. On gesticule, on gesticule, et puis à la fin, on meurt.
Bon bah écoute, je te laisse la fin de l'explication sur le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous n'aviez pas joué au jeu, peut-être à y voir un petit peu plus clair. Et puis si vous y avez joué, peut-être à vous énerver sur Patrick qui n'a rien compris.
Ou sur moi. Hein.
Ou peut-être sur Benoît, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je comprends beaucoup plus ce que les gens trouvent dans ce jeu aujourd'hui, et c'était, j'y étais vraiment hermétique, et clairement je pense qu'on l'a bien compris, c'est juste que ça m'a pas parlé, et bon bah ça peut arriver à tout le monde.
Mais je pense pas que tu sois passé à côté du truc, parce que t'es quand même conscient qu'il se passe quelque chose dans ce jeu, et que c'est bizarre quand même que toi tu sois passé à côté, donc c'est ce que je te disais. Maintenant, moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que je suis dans la position où j'en ai marre que les jeux, comme tu dis, ils m'expliquent tout, ils me foutent tout sur un plateau. Laissez-moi réfléchir, je suis intelligent. Laissez-moi je suis un être humain, je suis pas si con que ça, je peux avoir des réflexions par moi-même. Et là, c'est ça aussi qui fait, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça. Moi, ça m'allait. J'avais besoin de ça à ce moment-là, parce qu'il y a le contexte qui joue forcément, tu vois.
Bien sûr, non, mais
c'était pas le moment, c'était pas.
Je suis d'accord. Bah, je crois que
on t'a peut-être trop vendu aussi, tu vois. On te l'a peut-être survendu. On t'a parlé des fins, les bidules.
Ouais.
Tu t'es créé une image dans ta tête et tout. Moi, il y a des jeux, à force qu'on m'en parle, j'ai plus envie de les faire, quoi.
Ouais, non, il y a certainement du fait que je me suis fait des films sur le jeu et je pensais que ça serait autre chose, en fait, même pas forcément mieux ou moins bien, mais autre chose. Le fait que je sois effectivement, rien qu'au niveau gameplay, je suis pas client de ce type de gameplay, donc forcément ça aide pas à apprécier le truc.
Ah, mais
à la base,
c'est fou, hein, tu t'es mis un sacerdoce de 20h où tu t'es dit allez, je vais faire ça, quoi.
Mais au-delà de ça, même le plus important, la partie sur laquelle on a passé le plus de temps, c'est finalement l'histoire et le message que veut faire passer Yoko Taro. Pour moi, on a vu en fait les mêmes vignettes, mais on n'y a pas trouvé la même chose. Et moi, j'ai besoin qu'un auteur me dise plus. Tu vois, j'ai pas besoin de voir. Je parle pas. Tu vois, il y a un juste milieu entre Nier Automata et Call of Duty.
Oui, oui.
Et moi, j'apprécie plus. C'est peut-être pour ça aussi que dans le ciné, on a des goûts très différents. Mais j'apprécie plus les trucs qui sont plus dirigistes, tout simplement, et où l'auteur me dit qu'est-ce que tu penses de ça, et pas voilà un truc, réfléchis. Et ça veut pas dire que je réfléchis pas, je pense que je réfléchis beaucoup, enfin j'espère en tout cas, mais c'est juste le type de message qui moi m'impacte moins et qui visiblement impacte beaucoup de gens beaucoup plus, donc
Ben ouais, moi j'étais, malgré tout, tu vois, j'étais quand même agréablement surpris, parce que le premier Nier, moi j'ai essayé d'en parler à tous les gens autour, parce qu'en plus, je trouve que la thématique de Nier, toi qui vas bientôt être papa, pourrait peut-être te parler plus, parce que là du coup, dans la version occidentale de Nier, tu joues un père dont la fille est malade, et il faut essayer de la sauver, et du coup moi ça m'avait vachement touché, parce que je trouvais qu'il y avait un rapport qui était vachement humain, et des choses qui sont pas abordées, le rapport père-fille est pas abordé si souvent que ça dans le jeu vidéo, en tout cas pas de cette manière là
donc c'est que, souvent père-fille, bon, en fait quand il y a un parent et un enfant, en fait on se rend compte que c'est souvent père-fille, mais
oui, oui, non, souvent c'est souvent ça, mais le rapport le lien entre le... Ah bon, c'est,
oui, les parents et les enfants, je comprends. Oui, bien sûr.
C'est ce rapport-là est pas souvent abordé dans le jeu vidéo.
Oui, tout à fait.
De manière un peu sensible, c'est souvent genre papa, maman. Oh, maman est morte. Vite, devenons un super héros, un super vilain.
C'est vrai, ouais. Ouais. Sauf d'ailleurs encore une fois dans The Last of Us, où c'est traité de manière assez différente.
Bah.
Non, tu trouves pas?
Ouais, oui et non, parce que tu vois, il a toujours dans ce rapport un peu ambigu avec avec Ellie. Est-ce que c'est tu vois, une espèce de palliatif pour sa fille qui est morte? Est-ce que c'est juste une gamine qui est là comme ça? Est-ce qu'il en est amoureux? Est-ce que, enfin, tu vois?
Ah non, il en est pas amoureux.
Bah,
oh, t'es dégueulasse là.
Mais non, oh, je suis désolé, mais non. C'est attends. Il y a une différence. Je te parle pas de qui s'imagine avoir des relations sexuelles avec elle. On n'est pas en train de parler de pédophilie. C'est juste que t'as une tendresse qui est entre ces deux personnages qui se crée tout du long. Où lui-même se rend compte petit à petit que c'est pas sa fille et que ça sera jamais un remplacement pour sa fille. Tu vois. Donc des fois tu te dis bah ouais, mais du coup si c'est pas sa fille et qu'il l'aime quand même à ce point-là, qu'est-ce que c'est? Donc bah c'est une fille adoptive. Alors du coup oui, c'est une fille.
C'est ça, oui, c'est plus dans ce sens.
Et ça dérive jamais vers un truc crado, bien sûr que non. Mais il y a, t'as quand même des réflexions sur le personnage par rapport à ce qu'il ressent, ce que la gamine elle ressent, ce que le monde autour, comme il est en train de disparaître, qu'est-ce qui se passe.
Et, tu veux dire que Nier le traite de manière très différente, le premier Nier, ce thème?
Ouais, c'est pas tout à fait le même délire, mais ça, par contre, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Et The Last of Us, moi, c'est un grand jeu. Il faut absolument que tout le monde l'ait fait, quoi, dans sa vie.
Bon, bah en tout cas, merci beaucoup de m'avoir prêté ton temps et ton interprétation.
Avec plaisir.
J'espère que les auditeurs auront pris plaisir à nous écouter débattre et à écouter nos points de vue. N'hésitez pas à venir nous dire dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires de l'émission, ce que vous avez pensé de notre discussion, ce que vous avez pensé du jeu aussi, votre interprétation. Est-ce que ce qu'a dit Benoît ou ce que j'ai dit vous a fait changer d'opinion un petit peu dans un sens ou dans l'autre? Je serais vraiment curieux d'avoir les opinions des auditeurs. Et comme tu le disais et comme on le dit, c'est un jeu qui nous a entre guillemets forcé à faire un épisode dessus parce que, bon, pour tout un tas de raisons, aussi parce que à mon sens c'est un des jeux dont on peut pas parler sans spoiler, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et rien que ça, et au final, si je prends un tout petit peu de recul, je crois que rien que pour la route E et ce qui s'y passe, dont on a parlé au début de l'émission, je crois que je suis au final content d'avoir fait le jeu. Même si je l'ai pas aimé, je crois que ce moment, pour, tu vois, c'est un moment d'histoire du jeu vidéo auquel je pouvais difficilement passer à côté. Enfin, dont je pouvais. Voilà.
C'est très beau. Tu vois, c'est toi qui auras le mot final finalement.
Oh, d'accord. Très bien. Bah, je le prends. Merci beaucoup, Benoît. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet?
Toujours pareil, à la télé, à la radio. Non, mais je suis toujours. Je fais des tests de jeux pourris sur Gamekult. Je fais des chroniques. Par contre, ça, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les mois, je fais une grosse revue de presse, des trucs très longs et très chiants à lire ou à écouter que vous connaissez peut-être pas forcément. C'est souvent en anglais, mais j'essaye vraiment de choisir des gros trucs. Là, ce mois-ci, j'ai fait une sélection de plein de post-mortem de jeux très cool, il y a tout un article d'un producteur musulman qui donne son point de vue sur la représentation de l'islam dans le jeu vidéo et des petits conseils qu'il donne à droite à gauche. Enfin, j'essaye de trouver des trucs passionnants et un peu plus différents que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est sur Gamekult tous les mois. Et sinon, je stream tous les soirs des jeux. Notamment Hollow Knight et Dark Souls, puisque je suis monomaniaque, c'est bien connu.
Et on aura le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission.
Oui, c'est @exerf85.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook. Le site, c'est frenchspin.fr. Vous pouvez y retrouver le rendez-vous tech où vous allez avoir un résumé de l'actu du monde de la technologie, résumé complet et compréhensible si tout va bien. Donc, vous pouvez trouver ça là-bas ou dans votre application de podcast. Et bien sûr, comme je le disais, laissez des commentaires sur les notes, sur l'article de l'épisode pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. On vous remercie très chaleureusement de nous avoir écouté. On espère que vous avez passé une bonne période des fêtes, oui, que vous avez survécu. Et on vous fait une énorme bise, on vous donne rendez-vous très très vite. Alors, entre parenthèses, dépendant au moment où on diffusera cet épisode, il risque d'y avoir je risque d'être très occupé par des changements de couche dans les jours et les semaines à venir. Donc on verra comment
se passe. Parce que là, c'est imminent, là.
Ah bah on n'est pas très loin, ouais, c'est mi-janvier si tout va bien. Donc
ouh là là, ah ouais d'accord, ouh là là.
Ah oui, c'est donc peut-être même que je garderai l'épisode pour après, enfin on verra. Mais bon, en tous les cas, l'emploi du temps risque d'être un petit peu perturbé, donc vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez avoir les informations et puis je vous tiendrai au courant évidemment sur les différents vecteurs d'information comme le site Facebook et tout ça. Et il y a des petits changements qui arrivent dans les podcasts dont je vous parlerai aussi à un moment. Je vous fais de grosses, grosses bises. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.
Salut à tous. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.